Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Phénomène, c'est parti!
Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h,
Brunet Neumann.
Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
Salut les amis, c'est Éric Brunet.
Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On va pas le faire du jour au lendemain, mais je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos.
Le président de la République recommande le port du masque, mais il veut le rendre obligatoire dans quelques semaines. En fait, il a précisé d'ailleurs à partir du 1er août. Eh bien, croyez-le ou non, ça fait débat.
RMC,
l'avis d'Éric Brunet.
Ah ben pour moi, c'est très simple, mes petits amis. D'accord pour le masque obligatoire. La sanction, si la personne ne porte pas le masque en rentrant à la poste, c'est qu'elle ne rentre pas. Si la personne ne porte pas le masque quand elle rentre dans un commerce, ben elle se fait mettre dehors par le commerçant. Voilà, c'est ça la sanction. Alors, surajouter à ça une amende, comme à la grande époque, hein, vous vous souvenez, de 135€, par exemple, eh bien, je dis non. Donc, oui au masque obligatoire, non à l'amende.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Enfin, c'est pas à vous, les amis, que je vais apprendre que les Français sont des rebelles par nature. Pourquoi le confinement, ça a marché? Pourquoi les Français ont été aussi formidables pendant le confinement? Mais parce que c'était obligatoire. On avait même, souvenez-vous, prévu des autorisations de déplacement. Pourquoi le port du masque, ça marche dans les transports en commun? Mais parce que c'est obligatoire et assorti d'une amende. Donc, je le dis, si pour des raisons sanitaires, il faut porter le masque dans les lieux clos et notamment dans les commerces, il faut une amende, sinon... on ne l'appliquera pas.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Et bonjour Lisa Marie.
Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Est-ce que tu es plutôt Brunet ou Neumann? Une amende, pas d'amende?
Moi je pense que la pédagogie ne suffit pas et qu'il faut malheureusement mettre une amende pour faire respecter, parce que sinon, on voit bien, les gens ne veulent pas trop suivre.
Bah oui, c'est comme les radars et les gendarmes sur le bord de la route.
Je te retournerai comme une crêpe, j'ai des arguments, je te retournerai comme une crêpe.
Je les attends. Alors, à vos masques, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron a tranché, le port du masque devrait devenir obligatoire dans tous les lieux publics clos face au risque de redémarrage de l'épidémie, mais les moyens de contrôle restent à préciser. Alors, faut-il accompagner cette obligation d'une amende? Pour Laurent, vous l'avez entendu, c'est oui, alors que pour Eric, c'est non. Qu'en pensez-vous? Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC, et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, le Twitter d'Eric et celui de Laurent, et la page Instagram RMC Off.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Allez, on accueille Jonathan qui nous appelle de l'Hérault. Salut Jonathan, bienvenue sur RMC.
Salut.
Salut, salut, bonjour Eric, bonjour Laurent.
Alors toi, est-ce que tu es pour le port du masque obligatoire assorti d'une amende pour les récalcitrants?
Alors, pas du tout. Moi aujourd'hui, je me rangerai du côté de Eric. Alors, je me rangerai du côté de Eric parce qu'il faut choisir. Mais si vraiment il y avait un troisième choix avec une réponse contre le masque, j'aurais naturellement voté pour ça. Voilà.
Ouais, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu as entendu le journal de Lucas Caltritti de la rédaction d'RMC juste avant Brunet Neumann, il y a 5 minutes? Il explique que les contaminations, Laurent, je parle sous ton contrôle, repartent à Marseille, que ça repart un peu partout. Bah, c'est plutôt inquiétant.
Inquiétant, vous allez dire? Ouais, d'accord, ok. Alors oui, effectivement, oui, ça repart à l'os. Effectivement, j'ai entendu. Alors moi, j'ai entendu aussi donc l'interview du président, donc qui va rendre obligatoire le masque. Moi, j'ai la première question qui me vient en tête, c'est jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand? Donc si vous avez une réponse, je suis tout oui. mais jusqu'à quand il va être obligatoire, en fait, ce masque?
Est-ce que tant, Jonathan, qu'il y a un risque d'épidémie, tant que le virus circule.
Okay. Jonathan, pardon d'y aller avec des comparaisons un peu gros sabots, mais je sais pas, moi, quand la France est envahie en 1940, les résistants se demandent pas jusqu'à quand. Ils disent pas, on va faire de la résistance pendant 6 semaines, parce qu'après, non, parce que là, ta question, elle est un peu naïve. Tant qu'on a ce putain de Covid qui tue et qu'on n'a pas de vaccin,
tu mets le point où je voulais que tu le mettes, justement. Ouais. Alors effectivement, donc concrètement, si j'ai bien entendu, on va garder le masque tant que le virus sera là, c'est ça.
Tant qu'il tue.
Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il va disparaître un jour, ce virus? Moi personnellement, c'est mon avis, j'y crois pas une seule seconde.
Jonathan, je peux te demander ce que tu fais dans la vie?
Alors je suis responsable d'une salle de sport, quoi. Donc je suis cadre
dans une salle de fitness. Voilà, c'est ce que je voulais te faire dire, donc je comprends ce que tu veux dire. Toi, le masque, ça te pose un problème dans l'organisation de ton travail quotidien. J'imagine que faire venir des gens pour suer sur des machines avec un masque, c'est pas envisageable, c'est compliqué en tout cas.
Alors, il a jamais été obligatoire. Il a été fortement recommandé, donc on va dire en gros les adhérents faisaient un peu à leur sauce, mais nous on le recommandait vivement, voilà. Mais après, bon, ça n'a pas été énormément respecté, ça je vous le cache pas. Mais voilà, oui, effectivement. Puis nous aussi, de notre côté, pour porter un masque, c'est juste insupportable. Enfin, qui prend un plaisir à porter ce masque.
Non, mais Jonathan, je te comprends pas. Et franchement,
dis-moi, Eric.
Je fais pas de la polémique pour faire de la polémique, mais si la maladie repart, si elle tue des gens, des anciens, des pas anciens, parce qu'on a vu qu'elle tue. Il y a pas photo, quoi. On porte un masque parce que on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui meurent autour de nous. Et on porte le masque pour être plus libre, parce que le masque, il t'empêche pas de prendre ta voiture, d'aller faire des courses, de te promener, d'aller au cinéma,
Pourquoi justement alors le masque n'est pas obligatoire depuis des décennies? Parce que pourquoi on fait une fixette sur ce fameux Covid? C'est pas le seul virus qui circule dans
Jonathan, il a déjà fait 30 000 morts en France, 130 ou 140 000 morts aux États-Unis. Ce sont des dizaines, des centaines de milliers de morts dans le monde, des millions de gens qui sont contaminés. Pourquoi?
Et bien sûr, ben après, bon, on peut comparer avec un autre virus, je sais pas, mais on compare souvent à la...
Jonathan, qu'est-ce que tu veux nous faire dire? Tu veux nous faire dire que le masque, c'est très désagréable à porter?
Moi, je veux vous faire dire que le masque, pour moi, c'est une absurdité. Voilà. Moi, je pense personnellement que l'immunisation, en fait, collective nous guérira. Voilà. Là, en fait, le fait de porter un masque, on ne donne pas, en fait, la possibilité à notre corps, justement, de lutter contre ce virus. Donc, jusqu'à ce qu'en fait, le virus n'entre pas dans notre corps, notre corps ne connaît pas ce virus. Bon, à quel moment il va pouvoir le combattre?
Jonathan, pour que l'immunité collective, on va passer la parole dans un instant à Robert Sebag, qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière et qui nous accompagne. Mais pour que l'immunité collective fonctionne, il faudrait sans doute que au moins 50, 60, 70% de la population soit infectée. Aujourd'hui, on est à peu près à 5 ou 6%. Avec 5%, il y a déjà 30 000 morts. Combien de morts faut-il pour accepter une immunité collective, et surtout sur combien d'années? On sait que ça n'est pas possible. C'est sur le papier, t'as remarqué juste, mais dans les faits, elle est absolument impossible. Donc pour se protéger, il y a les gestes barrières et il y a le masque. Voilà.
On en revient à notre question du départ. Jusqu'à quand le masque va être obligatoire?
Tu as donné la réponse. Tant que le virus circule.
Non mais là où il essaie, Jonathan, je vois très bien son discours, parce que Jonathan, en fait, il est comme tous les Français, il est un peu guidé par ses intérêts personnels. Quant à un truc, il a une salle de sport, Jonathan. Donc le Covid, ça a ruiné en quelque sorte l'économie de sa vie, de son existence.
Non, Eric, détrompe-toi. En fait, je suis que gérant. Hein. Je ne suis pas propriétaire des lieux, entre guillemets. Ouais. Voilà.
Non,
pas du tout.
Bon. Et alors, par ailleurs, on peut entendre son argument. Il fait une démonstration par l'absurde, parce qu'il dit les maladies infectieuses en général, au premier rang desquelles tu mets la grippe, régulièrement en France, beaucoup de Français qui, si on avait eu des masques, ne seraient pas morts de la grippe. Alors même si la grippe a tué moins que le Covid, et t'as raison de dire, alors pourquoi? Parce que il y a, Laurent, il y a un paradoxe quand même sociétal savoureux. c'est qu'on est surmobilisé sur ce Covid qui tue 30 000 personnes. Mais à chaque fois, on se dit, bon sang, les maladies cardiovasculaires tuent davantage, le cancer tue bien davantage, la cigarette est responsable de 75 000 morts prématurées en France, etc. Donc, tu te dis, mais pourquoi on mobilise tant d'énergie pour une maladie qui tue finalement moins que d'autres?
Je vais attendre à la réponse. La réponse, c'est que les cigarettes, t'es pas obligé de les fumer, que la grippe, tu peux te faire vacciner, que le coronavirus, la façon de s'en protéger tant qu'il n'y a pas de traitement ni de vaccin, c'est de porter le masque et d'accepter les gestes barrières. Et je vais te dire, parce que j'ai beaucoup discuté ce week-end avec beaucoup de commerçants qui, comme toi, s'inquiètent de ce port du masque. C'est très désagréable. Aller au restaurant, aller dans des lieux publics avec un masque, c'est franchement pas sympa. Mais très honnêtement, la plupart d'entre eux se disent, qu'est-ce qui vaut mieux ? Il vaut mieux que les clients et les commerçants portent un masque, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'à la rentrée, si le virus revient de façon virulente, on soit obligé à nouveau de refermer tous les magasins? Franchement, à choisir, tu choisis le moindre mal, et le masque, c'est le moindre mal.
Et j'ai même pas parlé de l'économie, en fait, parce que je pense que ça va faire un tort énorme, moi, aux commerçants.
Oui, mais moins que de fermer tous les commerces.
Alors oui, heureusement, c'est non plus à l'époque du Moyen-Âge. On va pas reconfiner les personnes, arriver à chaque hiver. Bon, ça me paraît quand même un peu moyenâgeux, tout ça. Mais ça va faire énormément de tort, moi, aux commerçants, je pense. Surtout à eux, en fait, parce que, effectivement, le port du masque obligatoire le 1er août, je pense que tout le monde va le respecter durant les premières semaines, je pense. Mais à un moment donné, il y aura forcément un relâchement.
Jonathan, si tu nous crois pas, nous, parce qu'a priori, tu as raison, on n'est pas médecin, nous, on peut peut-être poser la question à Robert Sebag, qui est avec nous. Bonjour Robert.
Salut Robert.
Bonjour Eric, bonjour Laurent.
Bon, je sais pas, tu as vu Robert, donc je rappelle, hein, pour ceux qui découvriraient cette émission sur RMC, évidemment, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, tu nous accompagnes depuis le début, et Dieu sait, j'en suis témoin, que depuis des mois, tu nous expliques que le masque devrait être obligatoire dans des tas d'endroits, pas seulement dans les transports. Qu'est-ce que tu peux donner comme argument à Jonathan? Nous, on donne des arguments, mais a priori, on n'a pas la légitimité du médecin, tu vois.
Bon, d'abord, que de temps perdu. Que de temps perdu, parce que, bon, hier, j'ai entendu, alors, bien entendu que je suis pour le masque obligatoire dans les lieux fermés, mais voilà. Pourquoi on attend le 1er août? Pourquoi on attend le 1er août? Parce qu'on va sortir encore des consignes avec la liste des établissements recevant du public. On les connaît, la liste. On ne va pas attendre encore 15 jours, alors qu'il y a aujourd'hui, il y a un rebond. C'est pas une deuxième vague, mais il y a un rebond. Il y a eu 10 personnes entrées en réanimation, alors que c'était zéro il y a quelques semaines. Il y a eu 67 nouvelles hospitalisations. Marseille, qui était plutôt une zone protégée. Parce qu'il y a un brassage. On est en période de vacances. Les gens se déplacent. Les gens se déplacent de zones plus infectées que d'autres. C'est le cas dans le Grand Ouest, où il y a 1 million de personnes sur la côte vendéenne qui arrivent de la région parisienne. Qui transportent ce virus. Alors aujourd'hui, on n'a pas le choix. On sait que le masque, ben c'est une protection. Les gestes barrières et le masque, on n'a pas le choix. Il y a un relâchement.
Robert, juste pour répondre à la question que tu poses, hein, et qui est légitime, et je pense que tu n'es pas la seule à la poser, quand tu dis pourquoi attendre le 1er août, je te donne la réponse officielle de l'exécutif. Hein. Voilà, l'exécutif dit d'abord, un, il faut le temps de rédiger un décret. Deux, il faut le temps de faire la liste des lieux. Tiens, par exemple, est-ce qu'on le rendra obligatoire dans une salle de sport? Ça intéresse Jonathan ou pas?
Quelle amende? Les lieux confinés qui reçoivent du public. On ne va pas tourner autour du pot avec le décret. Ça prend des semaines, ça a pris 2 mois pour avoir les tests vétérinaires alors qu'on n'avait pas de tests. Ça suffit, je veux dire, on est en situation d'urgence. C'était pareil, fin avril, on a dit, à partir du 11 mai, donc encore 11 jours, on va rendre le masque obligatoire dans les transports en commun. Et entre le 30 avril et le 11 mai, il y a eu des contaminations.
Dis-moi.
On perd du temps. Je suis un peu énervé. Que je suis pour, mais pourquoi attendre encore le 1er août?
Qu'est-ce qui change depuis quelques jours, là? Tu nous as dit, la semaine dernière, Robert, qu'on avait réouvert des lits à la Pitié-Salpêtrière. Honnêtement, qu'est-ce qui change? Parce que, est-ce que tu es alarmiste, ou est-ce que la situation va vraiment mal?
Non, je suis pas alarmiste. On n'est pas le porteur de mauvaises nouvelles et faire augmenter la psychose. Moi, je donne des faits.
Non, mais concrètement, c'est quoi les faits?
Concrètement, les faits, c'est très clair. Il y a eu une ouverture des vols d'un certain nombre de pays, et on a beaucoup de gens qui sont venus, en particulier des pays du Maghreb, et qui ont été contaminés, parce qu'il n'y a pas de contrôle à l'aéroport. Alors on nous dit qu'on va faire des contrôles à l'aéroport avec des tests salivaires, mais quand chaque jour qui passe, il y a des gens contaminés qui arrivent, et on sait aujourd'hui, il y a des chiffres précis, Eric et Laurent, le fameux R0, il était à 0,7, il est passé à 0,9, il est à 1,05. Il est à 1,05, c'est une cote d'alerte hein, quand on dépasse le 1. Et puis on est sur une pandémie, je veux dire, on ne veut pas isoler la France, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne compris, sans compter d'autres continents comme l'Amérique latine et tout, il y a des trous dans la raquette, il y a des gens qui se déplacent. Donc cette pandémie, on y a droit, il est toujours là. Il est toujours là, ce virus. Alors bon, c'est pas agréable.
Hein, quand je t'écoute, je suis désolé, Robert. Quand je t'écoute, c'est pas. Il est toujours là. C'est on l'a fait revenir. Enfin, il était toujours là. C'est vrai, mais apparemment, tu expliques qu'il y a eu un effet accélérateur du fait de la réouverture des vols aériens, quand même.
Il y a eu une accélération et puis aussi le relâchement. Et Eric, c'est le relâchement. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup plus en plein air et qu'il y a moins de risques, même si on sait qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de vent, il y a une aérosolination, pardon. Il y a des aérosols, maintenant ça a été prouvé, donc des particules qui restent dans l'air et qui peuvent se transmettre dans l'air. Mais regardez, hier, vous avez parlé de la rencontre de M. Macron aux Tuileries avec des gilets jaunes, enfin avec des gens, peu importe. Vous avez vu, il est à moins d'un mètre et il parle sans masque et la personne en face de lui n'a pas de masque. Et là, ils sont très près. Ils sont très près, et puis il n'y avait pas de bourrasque devant.
Alors, donc, ouais, non, mais c'est tu as raison, tu as raison.
Pardon. Robert, moi, j'ai vu ces images.
Il y a un deuxième aspect, Robert. Je vais revenir vers toi dans un instant. Ouais. C'est est-ce qu'il faut assortir cette obligation d'une amende ou pas? On va remercier Jonathan qui nous appelait de l'Hérault. Je voudrais qu'on aille voir Ninette qui nous appelle de Nice. Salut, Ninette.
Oui, bonjour Eric, bonjour Laurent,
bonjour Ninette.
RMC.
Toi, est-ce que tu penses que cette obligation du port du masque doit être assortie d'une amende?
Ben moi, je pense que oui. Enfin, je suis un petit peu mitigée parce que vu il y a moins de travail, les gens n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de quoi manger, et puis si on leur met une amende, c'est un peu dur. Mais je suis quand même pour l'amende parce que les gens sont, il faut que chacun soit responsable, accepter une petite contrainte pour éviter le reconfinement. C'est du temps perdu. Pourquoi attendre jusqu'au 1er août? On n'a pas attendu quand le président nous a fait quand il a fait son discours, du jour au lendemain, on était en confinement. Oui. Donc, on n'a pas attendu. Le 1er août, on a encore 15 jours. Nous allons avoir ici à Nice énormément de personnes qui vont arriver. Il n'y a pas de contrôle à l'aéroport. Les gens ne sont pas... On ne sait pas ce qu'ils transportent, s'ils transportent le virus ou pas.
Ouais, mais toi, Ninette, pardon de t'interrompre. Toi, tu dis comme moi, s'il n'y a pas d'amende, on prend le risque que cette obligation ne soit pas respectée, comme les limitations de vitesse sur la route, comme au moment du confinement. Donc toi, tu dis, pour responsabiliser les gens, il faut la peur du gendarme.
Voilà, exactement. Ninette,
c'est Eric Brunet, tu as parlé d'argent, là, c'est intéressant. Ah. Tu as dit, bon, c'est vrai, 135 euros, oui, ça ne va pas être facile.
C'est beaucoup d'argent.
Je voudrais faire une petite parenthèse avec toi, Ninette, et avec Laurent. Le port du masque obligatoire, ça va sérieusement être un budget pour les familles. Ça coûte combien une boîte de 50 masques, à peu près?
Je ne sais pas.
Le prix est
40
euros.
40
euros. 47 euros
les 50 masques. Ouais, enfin,
c'est aux alentours de 40 euros.
Sauf que les commerçants, les supermarchés, quels que soient les endroits où on va, si on a oublié son masque, il peut arriver. Tout le monde en fournit gratuitement.
Bon, très bien. Ok. Donc ça veut dire attends, Ninette, ça veut dire que pour une famille de 3 personnes, on va prendre une petite famille. Hein. Voilà, c'est 3 masques par jour. Peut-être minimum, hein, en réalité. Oui, c'est 3 masques par jour par personne, puisque c'est valable que 3 heures, ce truc-là. Donc, ça fait une dizaine de masques, ça fait une boîte tous les 4-5 jours. Il va vraiment falloir...
Tu voudrais que ce soit gratuit.
Non, pas du tout. Ah, je sais que c'est ton truc, toi, les masques gratuits. Mais, en gros, t'imagines, ça va faire 4-5 boîtes par mois. C'est un budget, c'est 200 euros par mois pour une famille. Donc, je ferme la parenthèse. Hein. C'est pour dire que ce truc, ça va coûter cher.
Je pense que dans tous les grands supermarchés, ils doivent délivrer un masque pour que les gens puissent, à ceux qui n'en ont pas, leur donner, non, mais avoir une réserve
Ninette,
et leur donner
moi, un masque. Ninette, d'abord, je suis très étonné parce que c'est bien la première fois, Eric, que je t'entends tenir un discours social sur le budget des familles pauvres. Deuxièmement, je te rappelle qu'on a mis en place le système du masque en tissu. On peut se le fabriquer ou l'acheter une bonne fois pour toutes. On n'est pas obligé, comme dans les entreprises, de changer de masque toutes les trois heures avec un masque chirurgical. Trois, le masque, il est fourni gratuitement dans des tas de lieux clos où il devrait demain donc être obligatoire. Et puis, pardon, le masque gratuit, j'y étais favorable. Mais en fait, on m'a convaincu du contraire. Le masque, c'est le préservatif quand tu fais l'amour. Le préservatif, il n'est pas gratuit. Non. Donc, le masque, il n'est pas gratuit. En revanche, on peut se le fournir. On peut le trouver partout.
Je ne voulais pas ouvrir une polémique sur la question. Je dis que ça va constituer un budget. Juste une chose. Pour moi, l'amende, elle est inutile parce que si tu portes pas ton masque à partir du 1er août, tu peux pas rentrer. La sanction, c'est tu peux pas rentrer à la poste, tu peux pas rentrer dans le restaurant, tu veux aller dans une droguerie, tu peux pas rentrer. Dans un hypermarché, tu peux pas rentrer. Donc t'es obligé d'avoir ton masque dans les lieux publics. Donc elle est là la sanction, madame, vous êtes venue pour rien, reprenez votre voiture, partez, vous pouvez pas rentrer à la poste. On n'a plus de masque, vous en aura bien donné un, mais on n'en a plus, donc rentrez. Donc elle est là la sanction. Pourquoi y aller une deuxième fois en disant, en plus, vous aurez une amende de 135
euros. Je te rappelle qu'il y a 4 ou 500 000 personnes qui conduisent sur les routes sans permis de conduire. Tu pourrais dire, fait de retirer le permis, elle est là la sanction. Pourquoi mettre une amende financière? Non, ça ne suffit pas. Il faut que les gens soient tapés au portefeuille, ou en tout cas qu'il y ait le risque d'être tapé au portefeuille, sinon ils n'appliquent pas la loi. Enfin, pas tous. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très civiques, qui appliquent les règles, mais il y a une proportion non négligeable de la population qui passe son temps à contourner les règles. Sans doute le système de rébellion à la française. Dès qu'il y a des règles, on imagine comment la contourner. Je ne sais pas ce que tu en penses, Robert.
Robert.
Non, d'abord, on n'est pas obligé de mettre la contravention immédiatement. Donnant 15 jours, si ce n'est pas respecté, effectivement, on passe à une contrainte. Et la dame a raison. Elle dit, moi, j'ai dit que de temps perdu, parce que quand on a fermé les cafés et le confinement, à 8 heures du soir, on a fait un discours, on a dit à minuit, vous fermez, il n'y a pas de problème de décret. Et là, on attend 15 jours encore supplémentaires. Non, c'est pas possible.
Juste Robert, pour être précis, et je le dis à Eric, en Espagne, la personne s'expose à une amende de 100 euros. En Angleterre, c'est 100 livres, c'est-à-dire 110 euros. En Belgique, c'est 250 euros pour le contrevenant, 750 euros pour le commerçant qui n'imposerait pas le port du masque. Et j'ai regardé, le pire, c'est au Canada, au Québec précisément, ça peut aller jusqu'à 400 $. Jusqu'à 6 000 $ pour les récidivistes. Donc, si nous, on met une amende de 135 euros, ce qui est déjà.
Public, hein,
absolument.
Dans l'espace public.
Absolument. Donc, une amende de 135 euros, c'est pas énorme.
Si vous prenez les enregistrements pour les gens qui n'écoutent pas tous les jours, on l'a dit depuis longtemps. Moi, j'étais pour le masque dans l'espace public au moins pendant un mois, juste après le 11 mai. Ça aurait évité peut-être le rebond auquel nous faisons face, aujourd'hui. Mais voilà les chiffres. Je dis aux gens attention parce que ça monte doucement. On regarde ça tous les jours et puis on regarde l'hémisphère sud. Donc il faut garder l'apprentissage de ces gestes barrières. Il faut lancer de nouvelles communications sur le port du masque. Il va être rendu obligatoire. Il faut réexpliquer aux gens comment on porte un masque, comment on ne le touche pas, comment on doit le changer. Maintenant, moi je suis Laurent, mais moi j'ai toujours dit que le masque est un outil de santé publique, il devrait être remboursé comme un médicament puisqu'il évite un certain nombre de contaminations. Et on sait que à la fois préserver d'hospitalisation et préserver de réanimation, c'est des milliers d'euros. Et c'est vrai que pour certaines familles, même si on le donne gratuitement dans certains lieux, c'est quand même un budget qui est relativement conséquent.
Bien, merci Robert, tu restes avec nous, c'est Robert Sebag de la Pitié Salpêtrière. Il est 13h26, mesdames, messieurs, vous écoutez Brunet Neumann sur RMC.
On
fait la bise à Ninette, ouais. Bisous Ninette, la niçoise des Alpes-Maritimes. On ira, tu sais où, avec Karim, on ira à Dagneux, dans le département de l'Ain. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Alors, vous avez écouté le président de la République, évidemment, Emmanuel Macron, on va parler du masque. Mais on va d'abord parler d'un jeu. Parce que dans Brunet Neumann, cette semaine, c'est les vacances. Toute la semaine, on vous offre votre séjour pour 4 personnes à Europa Park avec votre nuit d'hôtel 4 étoiles, s'il vous plaît. Excusez du peu. Alors, vous pouvez partir vous amuser dans le parc. Le parc a été élu d'ailleurs meilleur parc du loisir du monde en Allemagne. C'est à quelques quelques kilomètres de Strasbourg. Vous profiterez de toutes les attractions du parc. Vous aurez également accès à Roulantica, le nouvel univers aquatique indoor d'Europa Park, avec des toboggans, des piscines à vagues, des rivières. Bref, c'est la fête pour les grands et les petits. Pour gagner ces jours magiques, bah, c'est très simple. Vous envoyez parc, P-A-R-C, par SMS au 732-16, parc au 732-16. Et puis évidemment, on tire au sort un gagnant avant la fin de l'émission, Eric.
Merci mon Laurent, tu as été très clair. Mesdames, messieurs, Emmanuel Macron a donc proposé de rendre le masque obligatoire dans les lieux fermés, les lieux clos, les magasins, les hypermarchés, les services publics, la poste, etc. À partir du 1er août, on va aller voir Karim. Après, on vous fera quand même la liste des endroits où c'est déjà interdit. Et des villes, il y a quand même des villes qui ont fait le choix déjà d'obliger à porter un masque. Allez, on va voir Karim.
RMC, Brunet-Neumann, 32-16.
Mon cher Karim, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Est-ce que c'est sympa le département de l'Ain ?
Écoute, le département de l'Ain est un département magnifique, tout près de la région lyonnaise, beaucoup de verdure, beaucoup d'espace et voilà, donc on y est très bien.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans l'Ain ?
Eh bien, je suis conducteur de bus dans le réseau lyonnais.
Ah d'accord, donc tu es conducteur de bus dans le réseau lyonnais, Lyon et puis la couronne autour de Lyon, les alentours.
Voilà.
Dis-moi,
voilà, tout à fait.
Dis-moi, dans ton bus, on respecte le port du masque qui est obligatoire, qui est obligatoire. On le respecte, ça ?
Alors, tout d'abord, je vais tout de suite répondre à ta question, Eric, mais j'aimerais juste apporter une précision. À la maison, nous sommes fans de votre émission. Ah. Mon épouse Sonia, elle était déjà intervenue il y a quelques semaines sur l'organisation scolaire. Donc, on kiffe votre émission. Deuxième précision, Eric, qu'est-ce qu'on a fait de mon Eric ? Qu'est-ce qui se passe, Eric ? Ça ne va pas aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Aujourd'hui...
Tu dis ça parce qu'ils s'inquiètent des familles pauvres qui ne peuvent pas payer leur masque ?
Non, pas du tout, mais... D'habitude, je connais mon Eric qui est plutôt clair, plutôt net, plutôt ferme sur certains principes. Pour répondre à ta question concrètement, au départ, les gens respectaient effectivement le port du masque. Il faut savoir que dans les transports en commun, le port du masque est déjà obligatoire. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, je constate, je suis pas le seul d'ailleurs, un relâchement phénoménal à ce niveau-là. Notamment dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a plus de monde sur le réseau, les gens ne portent plus le masque. Je ne veux pas dire ce sont les jeunes, je ne veux pas dire ce sont les jeunes des personnes plus âgées, mais voilà, il y a un relâchement. Je me suis amusé un petit peu à calculer le nombre de personnes qui n'avaient pas de masque. Aujourd'hui, j'arrive parfois à dépasser les 50% de mes passagers.
D'accord, quelle histoire.
Ce n'était pas le cas au départ.
Dis-moi, je suis désolé, mais je suis obligé quand j'entends un chauffeur de bus qui me parle de ses passagers qui n'ont pas de masque, à penser à la disparition de ce chauffeur de bus de Bayonne, c'est ça, hein,
oui.
Philippe, ouais. Monguillot. Est-ce que toi, quand un type n'a pas son masque, ou une femme, un passager ou une passagère n'a pas son masque dans le bus, est-ce que tu l'enjoins, tu lui demandes d'en porter un ?
Non. Très clairement, non. Alors, même si on a... Ça nous démange, parfois, parce qu'on se dit, Mais, il y a des affiches, c'est indiqué partout, Mais on ne le fait pas. Je te cache pas que la mort de ce collègue à Bayonne nous a un peu, nous a un peu perturbé, parce que ça a été d'une violence phénoménale. Mais nous, dans la région lyonnaise, on est organisé d'une manière où on n'est pas censé demander aux gens de porter le masque, puisque derrière, il y a des solutions, il y a des contrôleurs qui sont là, qui contrôlent les titres de transport et le port du masque. Et c'est le rôle aussi de la police.
Ouais,
je ne sais pas si c'était le cas à Bayonne. Mais en tout cas, dans le réseau lyonnais, c'est comme ça que ça fonctionne.
Karim, je t'écoute attentivement, c'est Laurent. Je veux dire, je boue intérieurement, parce que moi, je me souviens, il y a quatre mois de cela, on avait des débats enflammés avec Éric Brunet, parce que l'État était l'incurie de l'État, il n'y avait pas de masque, c'était un scandale, on ne protégeait pas les gens, etc. Aujourd'hui, soyons honnêtes, des masques, on en trouve absolument partout. Et même pire que ça, on peut s'en procurer, on peut se faire des masques en tissu, on peut les laver autant de fois qu'il faut, les utiliser 40, 50, 60 jours. Donc les masques, il y en a partout. Et maintenant qu'il y en a partout, eh bien les gens font tout pour contourner la règle et ne pas en mettre. Et on s'interroge même sur le fait de savoir s'il faut le rendre obligatoire, s'il ne faudrait pas mettre une amende. Mais il y a quelques mois, les gens pleurnichaient, hurlaient, tapaient à bras raccourcis contre le gouvernement qui n'avait pas fait les efforts sur les masques. Maintenant, il y en a partout et on se demande comment ne pas le mettre, si on peut l'éviter, etc. Ça me rend dingue.
Nous sommes un peuple schizophrène. Voilà, moi, vous savez, j'ai le temps de conduire, on a le temps le cerveau travaille, le mental travaille, et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens comme ça? Voilà. Nous sommes un peuple de schizophrène. On a connu un confinement très dur, on ne pouvait pas sortir, on devait, effectivement, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test, il n'y avait rien, voilà. Et aujourd'hui, vous sortez dehors, vous trouvez des masques par terre, c'est-à-dire que non seulement il y a des masques, mais en plus, les gens, quand ils les utilisent, ben, ils les balancent par terre. Voilà. Et aujourd'hui, comme tu le dis très bien, Laurent, les gens, je sais pas, comme un geste de défi, comme un geste de, j'ai du mal à comprendre ces réactions-là. Ils montent dans le bus.
Non, mais ce qui est dingue, Karim, c'est qu'on en soit arrivé aujourd'hui à se demander s'il faut pas le rendre obligatoire et à sortir cette obligation d'une amende. Moi, je me souviens encore une fois, je le répète, il y a quelques mois, j'avais l'impression que s'il y avait eu des masques partout, la France entière aurait porté des masques tellement on en voulait. Mmh. Et maintenant qu'il y en a partout, il faut le rendre obligatoire et mettre une amende pour que les gens le portent.
J'entends ce que tu dis, Laurent, mais je suis désolé si les gens peuvent pas monter dans le bus. Parce qu'ils n'ont pas de masque, ça sera 10 fois plus efficace. Sauf évidemment,
qu'il faut des contrôleurs, il faut des gens pour contrôler. Et il te le dit, Karim, t'as vu ce qui s'est passé à Bayonne? Il n'ose pas engueuler les gens dans le bus, il n'ose pas leur dire, sinon il a peur de se faire casser la gueule.
À la poste, en bas de chez moi, il y a quelqu'un qui filtre, voilà, qui dit bonjour, entrez, n'entrez pas, vous n'avez pas de masque, vous en voulez un, il nous en reste 2 ou 3. J'y suis allé samedi matin, il y avait une dame qui n'avait pas de masque. Moi, je venais justement d'acheter une boîte. Et on lui a refusé l'entrée de la poste. J'ai trouvé ça très bien, mais fort heureusement pour elle, je lui ai offert un masque. Elle est rentrée finalement. Mais le type à l'entrée lui avait dit: madame, je suis désolé, on ne peut pas vous faire rentrer. Et ça, pardon, c'est plus efficace pour moi que les 135 euros d'amende.
On va remercier Karim.
Ouais. Laurent, juste un truc. Est-ce qu'on peut demander à Lisa Marie, sur cette question du masque qui serait obligatoire dans les lieux fermés? Vous savez que c'est ce qu'a dit Macron hier. C'est ce qu'a proposé Macron hier. Comment ça se passe, Lisa Marie, à l'étranger, dans d'autres pays autour de la France, par exemple?
Bien, je peux te parler de l'Europe, par exemple. Plusieurs pays imposent déjà le port du masque dans les espaces publics clos. C'est par exemple le cas en Belgique, en Italie, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie et en Bulgarie, selon le site officiel de l'Union européenne. En Belgique, on en a parlé lundi, c'est obligatoire depuis samedi et les contrevenants risquent une amende de 250 euros. Et quant aux commerçants ou exploitants qui ne respectent pas l'obligation, ils risquent une amende de 750 euros. D'accord. En Angleterre, c'est une amende de 110 euros.
Madame la boulangère, si tu rentres chez elle sans le masque,
Et qu'il y a un contrôle, elle risque du coup 750 euros d'amende.
Parce qu'elle ne porte pas le masque ou parce que son client...
qu'elle accepte qu'un client rentre sans masque alors que c'est obligatoire.
Ah oui, quand même.
Bah, tu sais quoi, on va aller en Belgique. Il y a Cécilia qui nous attend. Allez, c'est parti.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Cécilia, elle nous appelle de Bruxelles. Bonjour Cécilia.
Salut Cécilia.
Bonjour.
On est content de t'avoir dans Brunet Neumann sur RMC parce que du coup, tu vas nous raconter non seulement c'est obligatoire depuis quelques jours en Belgique, le masque, mais il y a bien des amendes et des amendes salées.
Alors oui, c'est obligatoire depuis le 11 juillet. C'est plutôt respecté. Franchement, j'étais dans un centre commercial hier et tout le monde portait le masque. Il n'y avait vraiment aucun problème. Ça a été une petite piqûre de rappel de respecter aussi les autres règles. Donc on a vu aussi que les tables, par exemple, sur les terrasses ont été plus éloignées qu'elles ne l'étaient. Il y avait eu un petit peu de relâchement. Mais il faut savoir que de toute façon, le port du masque est obligatoire depuis le début du déconfinement, en fait, dans les transports en commun, avec beaucoup de vigiles qui font des rappels. Je n'ai vu personne se faire des balisés. Par contre, on est dans une culture de prévention, donc la police a été déployée et évidemment demande à ceux qui ne le portent pas de faire demi-tour, de ne pas rentrer dans le bus ou lorsqu'on a eu des arrêtés municipaux dans certaines communes pour que des rues commerçantes, par exemple, soient accessibles uniquement avec le masque, les policiers étaient à l'entrée de la rue commerçante et demander à ceux qui ne portaient pas le masque de faire demi-tour.
Mais alors pourquoi, je vous interroge tous, pourquoi en Belgique les gens respectent ce port du masque dans les transports en commun, dans les bus, et pas chez nous? Parce que chez nous, c'est obligatoire aussi dans les bus. Hein, Lisa Marie, c'est obligatoire dans tous les bus de France en ce moment. Pas besoin d'attendre le 1er août.
Bien oui, en France, le masque, il est pour l'instant obligatoire dans les transports, sous peine d'une amende de 135 euros.
Déjà.
Déjà, c'est déjà le cas. Et puis aussi dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux et les EHPAD. Et c'est aussi obligatoire pour les personnels de cafés et restaurants ou encore pour les coiffeurs et les esthéticiens.
Et pourquoi nos cousins belges, on est les mêmes, nous, enfin, les bruxellois, on est tellement proches culturellement. Pourquoi chez eux, on respecte et pas chez nous?
Le civisme. Ouais. Le civisme.
Ah bon, voilà, Cécilia. Le civisme. Cécilia, quelle est ta réponse, toi?
Bon, c'est pas respecté par tout le monde. Hein. J'ai aussi vu des personnes qui contrevenaient aux règles ou qui ne réalisaient pas évidemment l'enjeu qu'il y a derrière. Après, on nous a distribué beaucoup de masques. En fait, on a reçu des masques à la fois du niveau fédéral, de la région et de la commune. Donc, on a tous des masques en tissu et on en a plusieurs par personne. En tout cas, pour les familles, pour toutes les personnes qui ont plus de 12 ans. Donc, on n'a pas d'excuses non plus puisqu'on nous a distribué tellement de masques.
Mais Cécilia, toi, ce que tu dis, c'est qu'en Belgique, un, il y a des masques. Deux, que les Belges ont plutôt bien accueilli cette obligation de le porter dans des tas d'endroits, mais qu'en plus, ils ne contestent pas l'idée que cette obligation soit assortie d'une amende.
Non, mais après, dans la pratique, je pense qu'on donne beaucoup moins d'amendes globalement. On est quand même dans une culture dans la police belge qui est plus de prévention que de verbalisation.
Oui, plus de pédagogie.
Systématique comme on peut avoir en France, en fait.
Plus de pédagogie que de sanctions.
C'est une culture un peu différente dans la police aussi, ouais. Plus de prévention que de sanctions, en effet.
Merci Cécilia, merci de nous avoir appelé. C'est un peu notre Française de l'étranger, tu vois. Oui. Nous appelle de Bruxelles. Alors c'est un peu nos voisins. Hein. On dit l'étranger, mais les Belges, ils sont tellement comme nous. Je les adore, les Belges. Allez, on va remercier Cécilia dans un instant. On ira du côté de Biarritz. On a le temps, oui, du côté de Biarritz. On ira voir Dylan. Et puis vous continuez à nous appeler, les amis, au 32-16. C'est Brunet Neumann sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Bon, beaucoup de messages sur cette histoire de masque. Est-ce que les gens sont prêts, Anthony, à payer l'amende ou pas?
Alors ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai Christophe qui a une question pour vous, les garçons. Aïe. Et qui vous dit, moi je comprends pas. Pourquoi attendre 15 jours pour rendre le masque obligatoire alors que je crois me souvenir qu'on a attendu 24 heures pour confiner tout le pays?
Oui, c'est ce que disait le docteur Robert Sebag tout à l'heure.
Il a raison. Et la réponse officielle du gouvernement, c'est de dire il faut du temps pour écrire un décret, pour faire la liste des lieux, pour décider quelle amende, qui contrôle, laisser le temps aussi aux commerçants de s'organiser.
Voilà. Un message de Elodie sur Direct Studio qui nous dit porter un masque égale protéger les autres. Quel est le problème? Ah oui, je sais. Égoïsme et individualisme. Dans quel monde vit-on, se demande-t-elle. Et elle nous explique qu'elle vit en Allemagne où le masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Ce n'est quand même pas un effort surhumain de se mettre un bout de tissu sur le nez et la bouche, nous dit Elodie.
RMC.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Alors voilà, Emmanuel Macron nous a dit il faut porter le masque. Alors on nous disait pas ça tout à fait il y a quelques mois, mais là désormais il est question de le rendre obligatoire dans tous les lieux clos avec peut-être une amende. Ce sera le 1er août. Alors avec Eric, on est plutôt OK sur l'idée de porter le masque. Ça fait des mois qu'on défend cette idée-là dans Brunet Neumann. Sauf qu'Eric lui dit c'est pas la peine de mettre une amende. Moi je dis que s'il y a pas d'amende, eh bien les gens ne le respecteront pas. Hélas, comment vous votez? On va faire un petit tour du côté de Lina Marie. Paris.
Ouais.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Eh bien, vous êtes plutôt OK avec toi, Laurent. Donc oui pour le masque, mais il faut accompagner cette obligation d'une amende. Vous êtes 78% à nous répondre, à nous répondre d'accord avec
les
Laurent.
Les gens sont lucides. les amis, pour une petite surprise, en préparant l'émission avec le réalisateur Donatien Guittard, on a ressorti une petite archive qui date du 6 mars 2020, puisqu'on parle des masques. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran. Écoutez.
Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
C'est bon, non, de se repasser ça.
Ouais, sauf que c'est assez dégueulasse.
Ouais, de quoi?
Mon Dieu.
Ah, bah, je trouve que c'est assez dégueulasse de dire ça. Bah, parce que d'abord.
Non, c'est pas dégueulasse, non, c'est pour sourire. C'est parce que le monde a changé du tout au tout. Voilà. Non, mais
voilà. Le monde a changé.
Oui,
exactement.
Mais...
Voilà, t'as tout résumé. Donc, ce son-là, oui, c'est le même ministre qui dit aujourd'hui qu'il va devoir imposer ça dans tous les lieux clos. Au mois de mars, c'était pas la doctrine. Nous, on avait un médecin. Il s'appelait le docteur Robert Sebag. Il était avec nous tous les jours. Il nous disait déjà que le masque était utile.
Il est là.
Mais il y en avait d'autres, des médecins que tu as reçus, que j'ai reçus, Eric, qui nous disaient exactement le contraire. Robert, tu te souviens de ça?
Oh, je me souviens. C'est vrai que ça fait sourire. Ça fait un petit peu sourire. On a perdu beaucoup de temps. Juste peut-être avant de vous quitter, je voulais dire deux choses. D'abord, en écoutant les auditeurs, je commence à me pencher vers Laurent. C'est-à-dire que je me dis qu'en fin de compte, quand j'ai écouté le chauffeur de bus lyonnais, alors bien sûr, il faut que les policiers ou les contrôleurs disent, écoutez, mettez un masque, il faut. Et si la personne est réfractaire, amende. Si la personne commence à gueuler, dit je suis pas d'accord, amende. Donc deux étapes. Et le dernier message que je voulais repasser. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 25% de personnes qui sont asymptomatiques, qui sont au milieu de tout le monde, de vous, des jeunes, des personnes âgées, et qui transmettent le virus. On le sait aujourd'hui.
Oui.
Et on sait en plus qu'avant d'avoir un premier symptôme, 3 jours avant, alors qu'on n'a absolument rien, on n'a pas de fièvre, on n'a aucun signe particulier, on est contaminant et on sécrète du virus. Donc il y a tous ces trous dans la raquette. C'est pour ça qu'il faut multiplier les tests.
On peut peut-être
accepter de faire des tests quand on vous les propose.
Ouais. Et Robert, on peut peut-être rappeler quand même que quand on met un masque, on se protège, mais d'abord on protège les autres. Si on ne le fait pas pour soi, faisons-le pour les autres.
C'est un problème de respect. On montre que je respecte l'autre quand je porte un masque. C'est extrêmement important.
Voilà.
Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire avant de vous quitter.
Merci, merci à toi Robert, merci qui nous accompagne depuis des mois.
Merci Laurent.
Merci Robert.
Salut Robert.
Allez, on repart du côté du 32-16.
RMC, Brunet Neumann.
32-16.
Et on salue Dylan, qui est à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Salut Dylan.
Salut tout le monde.
Quel temps chez toi à Biarritz?
Écoute, un peu de pluie ce matin, mais quelques matins, c'est de la grisaille. On va repartir sur du soleil, comme on est habitué ici.
Je voudrais pas te sembler exagérément sévère, mais c'est la cuvette, quoi. C'est le problème de la cuvette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la tragédie basque. Voilà, on peut se le dire. Voilà. Bon, je croyais que tu te battrais un peu, que tu dirais, mais non, pas du tout, c'est de légende.
Non, parce qu'on est les premiers à dire aujourd'hui qu'ici, en une journée, on arrive à avoir les 4 saisons. Donc, c'est ce qui fait le charme du pays basque aussi, quoi.
Ouais. Bon, dis-moi, Emmanuel Macron a donc proposé hier, dans son allocution du 14 juillet, de rendre le masque obligatoire dans les lieux clos, les lieux fermés. C'est quoi d'ailleurs les lieux clos, les lieux fermés? C'est toute Laurent, c'est les magasins, les hypermarchés.
Les commerces, les supermarchés, les restaurants, c'est déjà le cas. Les salles de sport, les théâtres, les cinémas, tous les lieux clos.
Ouais, voilà. Et puis les bâtiments publics, quoi, les conseils généraux, la poste, l'URSSAF, tu vas au bureau, n'importe quoi.
La sécu,
tu vas faire une démarche administrative, paf, masque obligatoire. Bon, Laurent, il l'a rappelé, lui, il dit formidable, et en plus, il faut une amende pour ceux qui ne le portent pas. Moi, je dis, la sanction, si tu ne le portes pas, c'est que tu ne rentres pas. Il n'y a pas besoin d'amende pour autant. Tu dis quoi, toi?
Eh bien, écoute, moi, je vais être honnête avec toi, jusqu'à il y a peu encore, j'aurais été dans ton sens. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, on le voit ici au Pays-Bas, bon, on a eu l'histoire de Philippe, le chauffeur de bus, on en avait parlé tout à l'heure. Moi, j'ai été à la manifestation parce que c'était un ami. c'est un ami, c'est une personne que j'ai pu côtoyer à plusieurs reprises.
Attends. D'abord, Dylan, parle bien en face de ton téléphone, oui. C'est pas terrible. Le son n'est pas terrible. Tu es en train de me dire que toi, tu connaissais personnellement ce chauffeur de bus qui a été donc roué de coups et tué, qui est mort?
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je ne le connaissais pas intimement comme sa famille, ce genre de choses, mais je le côtoyais à travers les trajets de bus que j'ai pu prendre à plusieurs reprises pendant des années. Le Pays Basque, c'est pas non plus très très grand. Hein. C'est pas Paris ni Bordeaux, donc les chauffeurs de bus sont plus ou moins toujours les mêmes. Et donc, c'est une personne qu'on a côtoyée, c'est avec ma femme, etc. Donc, on sait très bien, on est sensible au sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est représentatif du problème de notre pays. Quoi. C'est-à-dire que on est parti en confinement au mois de mars. Moi, je travaillais encore dans les assurances à ce moment-là. Donc, on nous a demandé au début, mais comme tout le monde, de rester à la maison, de faire du télétravail. L'activité reprend au 11 mai. On nous demande, nous, de protéger notre clientèle à travers des masques, des ports de masques et autres. Le problème aujourd'hui, c'est que nos clients, eux, ne nous protègent pas. C'est-à-dire que nous, on est finalement, nous, à protéger les autres, mais on est face à des gens qui sont sensiblement, potentiellement, enfin, en tout cas, qui peuvent éternuer, tousser, faire n'importe quoi. Donc, eux-mêmes ne nous protègent pas. Donc, déjà, il y a un gros problème à ce niveau-là. C'est qu'on nous dit, allez-y, vous pouvez les yeux fermés, on vous produit du gel hydroalcoolique, on vous donne des masques, on vous donne tout ce qu'il faut. Par contre, en face, les gens n'ont rien. Donc, en fait, on protège les autres, mais nous, non. Ça, c'est le premier sujet. On voit bien qu'aujourd'hui, quand les gens, il n'y a pas d'obligation. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions sévères derrière, les gens se permettent tout et rien. On le voit bien avec ce qui s'est passé avec Philippe. Mais Philippe, malheureusement, c'est un cas dramatique, mais des cas moins graves, il y en a, et heureusement, mais qui sont aussi représentatifs de ça à fond. On a eu un problème sur Biarritz qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux aussi, d'un bar qui s'appelle le Bar Jean, qui a fait un peu polémique, qui est passé sur M6 et tout ça, parce que il portait le masque, mais à se faire la bise devant les caméras. Il y a eu tout un tas de polémiques, même le préfet s'est mêlé de tout ça. Enfin,
pourquoi c'était quoi le problème dans le Bar Jean à Biarritz?
Bar Jean à Biarritz, qui est un bar mythique, hein, ici au Pays Basque, mais c'est clairement qu'aujourd'hui...
Les gens se faisaient la bise avec le masque, ouais, c'est ça?
C'était l'après-confinement, donc M6, dans 7 à 8, autant pour moi. C'était dans 7 à 8, avait voulu aller sur la côte et puis voir 2-3, on va dire, gros restaurants, bars, pour voir un petit peu l'organisation et l'après-confinement, comment ça se passait. Les patrons du Bar Jean, en tout cas le fils qui a repris l'affaire, s'est montré donc avec le port du masque, les distanciations d'un mètre entre chaque table. Enfin, jusque-là, tout allait bien, sauf que dans le déroulé du service, etc., le côté familial et autres... la bise avec tous les clients, n'était pas équipé de masque, lui équipé. Ensuite, la distanciation de table, elle n'existait plus dans le reportage. Il y avait des tables, interview aux tables de plus de 10 personnes, il était 14 à 15 par table. Même le préfet, quand il a vu ça, il était
ouais, bah, ouais,
le lendemain,
comprends.
Il y a eu. Enfin, ça fait partie de ces choses-là où même les professionnels aujourd'hui ne respectent pas ça. Moi, je suis pas pour le matraquage d'amende. Par contre, ce qui me désole moi aujourd'hui, c'est oui, là, je suis à Leroy Merlin, là, ça ne joue pas, hein, pour pas les citer, mais bon, c'est je suis dans une grande surface. Il n'y a quasiment aucun masque, quoi.
Chez le roi Merlin, bon. T'as aucun masque.
Merci.
Le roi Merlin de Biarritz, les mecs. Oh, des masques.
Merci Dylan. Et Dylan, il était à Biarritz. Non, c'était clair. C'est pour ça que l'amende, je vois pas comment on s'en passe. Enfin, on va voir comment vous avez voté, les amis.
RMC. Brunet Neumann. Le qui tu choisis.
Alors, faut-il accompagner l'obligation du port du masque d'une amende? Eh bien, vous avez répondu oui à 85%. Donc, c'est une victoire pour Laurent.
Et les gens sont schizophrènes. Ils ont envie de se faire taxer au port.
Je crois qu'ils sont lucides, hein, surtout. Ils savent que s'il n'y a pas d'amende, on ne respectera pas les consignes. Dans quelques instants, Eric, on va parler des vacances, ou plus exactement du travail en vacances. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de Français qui continuent de consulter leur téléphone, leur mail professionnel pendant leur congé. Eric dit que lui, pendant les vacances, il coupe tout. Moi, j'avoue que je fais partie des accros, que j'arrive pas à décrocher. Et vous, les amis, vous faites comment? Vous arrivez à quitter le boulot, même pendant les vacances? Vous nous appelez au 3216. On vous attend. On attend vos témoignages, votre opinion. Et puis nous, Brunet Neumann, on revient dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Brunet Neumann. RMC. Il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Salut les amis, accro au boulot ou pas, c'est Laurent Neumann.
Salut les amis, accro au boulot ou pas, c'est Éric Brunet.
Eh oui, parce qu'il y a de nombreux Français qui, pendant leurs vacances, continuent de consulter leur téléphone, leur mail professionnel. Eh bien, une fois de plus, Brunet et moi, on n'est pas d'accord.
RMC.
L'avis d'Éric Brunet.
Eh bien moi les amis, j'ai une capacité formidable, j'arrive à couper. Je coupe même mon téléphone pendant les vacances. Les mails, je n'en parle même pas, je coupe tout. Les WhatsApp terminés, je coupe tout. Et de temps en temps, deux, trois fois dans la journée, j'allume 20 minutes, je passe un petit coup de fil à maman, un petit coup de fil à papa, un petit coup de fil à ma petite sœur. Je check un peu les trucs, il n'y a pas d'urgent, hop, il n'y a rien d'urgent, hop, je coupe. Voilà, c'est ça, mesdames, messieurs.
RMC, l'avis de Laurent Neumann.
Bah moi je ne coupe pas, je l'avoue, ça cause d'ailleurs parfois des soucis, des conflits en famille. Bah oui, mais quand on est journaliste, l'actualité elle s'arrête pas le jour où on part en vacances pour reprendre le jour où les vacances sont terminées. Bah non. Donc je l'avoue, j'ai mon téléphone portable plusieurs fois par jour, je regarde les dépêches de l'AFP, les alertes des différents médias. Bref, je continue à me tenir au courant. Vous allez dire que c'est une drogue, que c'est une addiction, peut-être, mais enfin moi j'aime ça.
Bon, Lisa Marie, pendant tes vacances d'été, ou en général quand tu prends tes vacances, est-ce que tu fais partie de ceux qui, comme Laurent, restent ultra connectés, qui checkent tout le temps leur smartphone ? Tu sais que quand il y a des études qui sont sorties, on regarde son smartphone, je crois une personne moyenne regarde son smartphone plus de 200 fois par jour.
Mais c'est dingue.
Alors moi j'ai trouvé ça excessif, tu sais, parfois il y a tellement d'études bidons, je trouve ça complètement débile, et je me suis surpris à me dire, mais dans le train, etc. Mais parfois, je dis, mais tu te rends compte que tu viens de regarder ton smartphone 15 fois en 5 minutes, t'es complètement fou. Alors, ça, c'est en travail, parce que moi, je te le dis, pendant les vacances, je coupe complètement. Et toi, donc, donne-moi ce que tu fais, toi.
Et moi, je vais dire, j'ai un peu du mal à décrocher. Puis moi, j'ai des parents, j'ai une maman profession libérale, podologue. Et quand on partait en vacances l'été, même si elle avait une remplaçante, bah, je sais qu'elle avait toujours l'angoisse que son téléphone sonne, que ce soit un patient qui a un problème au cabinet. Donc même si elle voulait décrocher, c'était difficile. Mon papa artisan, c'est pareil. S'il y avait des clients qui l'appelaient pour des devis, des factures, bah, il pouvait pas décrocher
fille, toi,
totalement.
Te demande ton avis. Et je parle de mes parents, parce que
quoi. Les parents, ça influe quand même sur ce que je suis devenue. Alors, si je suis salariée, peut-être que ça sera un peu différent, mais c'est vrai que pour des professions libérales ou des artisans, c'est quand même pour les indépendants, ils n'ont pas le même point de vue que des salariés ou des fonctionnaires, quand même, il faut le dire.
Quand tu es en vacances, une journée où tu utilises ton smartphone, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Tu vas sur
les réseaux sociaux, les messages.
Tu fais des TikTok, tu fais des Instagram.
Ah non, moi, je ne suis pas sur TikTok, pas comme tes filles, mais je suis sur les réseaux sociaux, je vais regarder mes mails. Bah, tu sais, on reçoit des notifications tout le temps, donc des notifications d'actualité. J'ai l'application RMC ou BFM qui m'envoie tout le temps, toute la journée, des notifications. Et puis je vais regarder, je vais me dire, ah tiens, il se passe ça. Et puis après, les réseaux sociaux, bon, bah là, c'est chronophage, c'est le plus sans fond. Hein. Instagram.
Moi, je reçois entre 300 et 400 dépêches AFP par jour sur mon téléphone.
Ah, c'est difficile
de
résister.
Je ne peux pas ne pas regarder. J'ai envie de savoir ce qui se passe en France, ailleurs, etc. Je veux me tenir au courant.
Et après,
je ne peux pas faire autrement, moi. Je ne sais pas comment vous faites.
Et après, l'autre problème, c'est les WhatsApp. Le fait qu'on soit. On est dans l'immédiateté. On veut répondre tout de suite à un mail. Bon, il faut aller dans sa boîte mail, répondre. Un WhatsApp, si tu es en ligne, tu vas répondre, tu vas le regarder. Donc c'est difficile parfois, je trouve, de décrocher aujourd'hui.
Bon, accro au boulot ou pas, on va voir comment vous allez voter, les amis.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Alors êtes-vous plutôt comme Laurent, difficile de décrocher du travail pendant les congés, ou comme Eric qui coupe tout? Racontez-nous et surtout votez. Et pour cela, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC, et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, le Twitter d'Eric et celui de Laurent, et sur la page Instagram RMC Off.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Allez, on est avec Danila qui nous appelle de Thonon-les-Bains.
Oh, mais Danila, bonjour.
Oui.
Danila.
Bonjour tout le monde.
La Haute-Savoie, salut Danila.
Comment vas-tu, Danila?
Ah ben, je vais très bien, merci. Bon. Et vous?
Très bien, très très bien. Tu fais quoi dans la vie?
Eh ben, je travaille en EHPAD.
Ah, dans un EHPAD. Quand tu es en vacances, par exemple cet été, tu vas tout couper ou tu vas rester connecté?
Alors, moi, je fais partie des personnes qui sont devenues relativement excessives. C'est-à-dire que je n'ai aucun réseau social, ou réseaux sociaux, comme vous voulez.
Oui.
Je n'ai plus de smartphone. J'ai acheté un bon vieux téléphone à 30 euros au bureau de tabac. Donc, il ne sert vraiment que de téléphone. C'est pas la peine de m'appeler quand je suis en vacances. Alors que mon téléphone est toujours allumé, mais ce ne sont que pour mes amis et ma famille. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Et même l'actualité, alors que je suis quelqu'un de relativement chronophage sur l'actualité, pendant mes vacances, pendant mes week-ends, je ne veux rien entendre, rien savoir.
Non, mais Danila, moi, je comprends un peu ta position. Voilà. C'est vrai que d'abord, travailler en EHPAD toute l'année, c'est extrêmement, extrêmement dur en termes de charge mentale. C'est compliqué. Et quand c'est les vacances, je comprends ça. Mais tu peux comprendre que dans ces...
je veux dire, excusez-moi. Alors oui, je suis peut-être excessive, mais... Alors déjà, ma vie privée. Alors qu'est-ce que ma vie privée? Je vais aller la mettre sur un réseau, comme ça aussi au vu de tout le monde, ou même en privé. Je suis désolée, si j'ai des choses à raconter à mes amis, je leur raconte. Mais je n'ai pas envie que tout le monde, ou même... Il y a des choses que je vais avoir envie de dire ou d'expliquer à telle personne et pas à d'autres. Il y a sélection. Je veux dire, maintenant, on se sent obligé de raconter sa vie privée, de mettre les photos du petit dernier, de la dernière piscine qu'on a achetée.
Danila, pardon, c'est Laurent, là, je te coupe. C'est un autre sujet. Et là, sur ce, de ce point de vue-là, je suis plutôt de ton avis. Moi non plus. Voilà.
Je suis désolée.
Non, mais la question, c'est davantage les mails, les SMS, les coups de fil du travail, des collègues, du patron.
Non, moi, je n'en veux pas non plus. Je n'en veux pas. Ouais. Il y a une période, oui, effectivement, j'étais la première à appeler mes collègues la veille de reprendre le travail pour savoir ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, dans quel état étaient certains résidents, s'ils étaient toujours là quand j'allais arriver. Mais j'ai décidé de stop, d'arrêter, quoi. Parce que, je veux dire, après, vous allez savoir que tel collègue est malade, vous allez faire quoi? Vous allez téléphoner à votre... ou on va vous proposer de venir travailler. Et attendez, je suis payée pour travailler, j'aime mon travail, mais je ne travaille pas que... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui. À un moment donné, il y a des limites.
Oui.
Et si on ne dit pas stop à ces limites, on n'a plus de vie privée, on n'a plus rien.
Oui, mais alors Danila, excuse-moi, ma remarque s'adresse moins à toi qu'à Eric. Moi, il y a quelques jours, je me souviens, on a débattu avec Eric Brunet de l'intérêt du télétravail. Et je m'opposais, moi, au télétravail sur le thème « Il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. » Et là, tu fais partie de ceux qui disent « Ah ben non, mais moi, pendant les vacances, je décroche tout. » Tu imagines ceux qui sont en télétravail, la différence entre la vie privée et la vie professionnelle, elle est totalement effacée. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas pendant les vacances. C'est un vrai sujet.
Non, et puis bon, j'ai des amis qui ont fait du télétravail. Et moi, je dirais que ça dépend aussi de l'employeur. Parce qu'il y a des employeurs qui vont respecter que l'employé travaille de telle heure à telle heure. Après, il ne faut plus les joindre. C'est comme, c'est leur poste de travail, point, ça doit s'arrêter. Il y a des employeurs qui ne respectaient plus du tout les horaires, que ça soit midi, que ça soit 16h, que ça soit 7h le matin. On leur envoyait constamment des documents. Et en même temps, quand vous êtes sur votre poste de travail et quand votre employeur vous en met un petit peu trop, à un moment donné, vous êtes capable de lui faire comprendre que trop, c'est stop, trop. Je peux plus continuer comme ça. Voilà. Après, il écoute ou pas. Après, bon, c'est à vous de savoir vous défendre. Mais quand vous êtes en télétravail, mais j'ai j'ai des amis qui ont été bombardés 24 heures sur 24 de mails, de travail, de dossiers. Il y en a une qui me racontait qu'elle y était de 7h le matin jusqu'à 23h le soir. Non, mais c'est inacceptable.
Lisa-Marie, juste parce que ça va intéresser Danila, je crois que dans les entreprises de plus de 50 salariés, on est obligé de passer un accord d'entreprise pour bien séparer vie professionnelle, vie privée, ce qu'on appelle la fameuse déconnexion.
En fait, le code du travail dispose d'un droit à la déconnexion qui oblige effectivement les entreprises de plus de 50 salariés de trouver un accord sur la gestion de la disponibilité des employés en dehors des horaires du travail.
Donc en dehors des horaires, c'est-à-dire avant qu'on commence à travailler le matin, une fois que le temps de travail est terminé,
et pendant les congés.
Mais aussi pendant les congés.
Effectivement. Tout ce qui n'est
pas
sur ton contrat.
Il y a certains pays qui ont fait une législation. Justement, un employeur n'a strictement pas le droit de joindre son employé, que ça soit par email ou par coup de téléphone ou autre.
Ouais, mais attends,
non mais nous c'est la loi en France. Non mais Danila, c'est le cas en France. Un 1er janvier 2017, c'est la loi.
C'est pas beaucoup respecté. Ou alors pas beaucoup d'employeurs.
Non mais là je suis pas. Enfin, franchement, Danila, moi je suis comme toi. Je coupe le téléphone et je l'ouvre un quart d'heure par jour. Bon, très bien, entendu. Mais faut pas non plus exagérer. Interdire à l'employeur, t'imagines, il y a des petites boîtes, un resto, je sais pas, un artisan menuisier qui a deux salariés, on n'a pas le droit de se téléphoner parce qu'il y a une relation de subordination.
C'est n'importe quoi. C'est excessif aussi, bah oui. Ce que vous dites. Je ne dis pas d'interdire. Moi, je pense que si certains pays en sont venus à là, c'est qu'il y a eu quand même des abus gravissimes.
Oui.
Mais si vous avez un employeur qui est correct,
Daniela,
toi,
tu m'as dit, j'ai fait exprès d'acheter un téléphone à 30 euros, super basique, sans rien. Tu as les SMS quand même, tu peux envoyer des SMS.
Oui, je peux recevoir et envoyer des SMS, ouais. Bien sûr.
Bon,
oui.
Bah, tu vois, voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas mal la formule de l'allumer un petit peu, un quart d'heure, trois quarts d'heure tous les jours, pour voir s'il y a des urgences, des choses comme ça, parce que tu as besoin quand même de rester connecté au monde, tu as besoin de savoir si dans ta famille, dans ton entourage...
Voilà, c'est pour ça que j'ai ce portable, justement, pour si ma famille a besoin de me joindre, ou mes enfants. Mais sinon, le monde peut tourner à un moment donné, on a besoin que le monde tourne tout seul sans nous, quoi. Mmh. On a besoin un petit peu de se recentrer sur soi-même et sa famille.
Non, mais c'est parfaitement défendable. Moi,
Parce qu'il y a quelques temps, comment faisaient les employeurs quand ils n'existaient pas ni...
Ils faisaient pas. Ils ne pouvaient pas vous joindre.
Ouais,
ils pas.
Et la boîte continuait de tourner sans vous.
Ouais. Le gros truc dans les entreprises, souvent, c'est « je suis désolé de te déranger pendant tes congés, mais... » Tu vois, le mail, il commence toujours comme ça. « Je suis vraiment désolé de te déranger pendant tes congés, mais le dossier XB12, je n'arrive pas à le trouver. J'en ai besoin parce que le patron me demande, etc. Est-ce que tu sais où il a été rangé ?» Enfin, il y a toujours des trucs comme ça. Mm-hmm. Ouais.
Eh ben, écoutez, moi, c'est ce que j'ai à certaines collègues. Je suis désolée. Nous, on est dans une région montagnarde. Eh ben, vous étiez peut-être du côté, je sais pas, de Chabonny ou du côté de Bernec. Si votre portable ne passait pas, voilà.
Ouais, non, mais j'entends ça. Daniela, on t'embrasse. On te souhaite plein de bonnes choses et surtout, on te souhaite de bonnes vacances. J'espère que tu en prends. Tu es en vacances, là ?
Alors, je vais être en vacances au mois d'août. Normalement,
c'est le début. Tu vas aller où ?
Alors, je suis de ceux qui ont décidé, vu mon travail, d'être raisonnable. Mmh. Je ne vais pas partir. Oui, parce que sinon, je serais partie en Vendée et je n'ai pas du tout envie de polluer, de donner... Malheureusement, j'ai une tante qui a un certain âge et qui je devais aller.
Ouais, enfin, cela
pour moi,
dit,
je vous avoue que j'ai attrapé le Covid.
Ah oui, tu l'as attrapé ?
Oui, mais on m'a fait ma sérologie et malheureusement, je ne suis pas immunisée.
Mmh. Ah, d'accord.
Donc, je ne veux pas prendre le risque de contaminer cette tante. Ou qui que ce soit, voilà. Je reste tranquille chez moi. Ici, on a le lac, on a la montagne.
Cela dit, c'est
voilà,
ce que j'allais dire. Hein. Passer ses vacances à Thonon, en Haute-Savoie,
tout
c'est
à
tellement
fait,
beau.
Voilà. C'est plus tellement agréable beau. Que, je veux bien le comprendre, dans certains quartiers de la région parisienne.
Absolument.
Oui, cela dit, t'es en vacances. Considérons que t'es en vacances toute l'année. Hein. Voilà, c'est comme ça.
Ah, oui.
Imagine, elle travaille dans un EHPAD. Mais c'est vrai, c'était une tellement belle région, la Haute-Savoie. Salut Daniela. On fait tourner la parole. Non, on ira tout à l'heure. Je t'annonce officiellement que nous irons dans un plus beau département encore que la Haute-Savoie. Je parle bien sûr du Gers. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Alors, de nombreux Français continuent de consulter leur téléphone, leur mail professionnel pendant les vacances. On s'est posé la question avec Éric Brunet. Eh ben, moi, je l'avoue, je fais partie de ces accros. Oui, c'est vrai, je n'arrive pas à décrocher, je continue à lire les dépêches.
C'est quoi une journée type de vacances? Alors, bon, imagine que tu es à la campagne, je sais pas, il fait beau, tu es au petit-déj, tu commences déjà, tu regardes les journaux déjà au petit-déj.
Ah bah,
tu regardes les infos sur ton smartphone.
Alors, au réveil, je lis effectivement les dépêches AFP. L'actu, pas les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, mais je fais un truc en arrivant en vacances et je sais que vous allez me prendre pour un dingue. J'ai honte, mais je le dis quand même. La première chose que je fais, c'est d'aller repérer le kiosque le plus proche de là où je suis, d'aller ouvrir un compte et je dis au kiosquier que je vais lui acheter les journaux tous les jours. Et d'ailleurs, je lui demande même de me les mettre de côté. Et donc, tous les jours, au moins une fois dans la journée, je passe prendre les journaux et je lis tous les journaux tous les jours, même pendant mes vacances.
Mais là, t'es hors sujet. Parce que
c'est mon métier.
Oui, mais t'es hors sujet parce que...
Non, c'est mon métier.
On dit, de nombreux Français continuent de consulter leur téléphone et leur mail professionnel pendant les vacances.
Oui, bref, d'être accro.
D'aller acheter les journaux, c'est pas la même chose.
Ah non, si, c'est pareil. Pour moi, c'est mon travail. C'est mon plaisir et c'est mon travail. Je lis les journaux tous les jours.
Alors, oublions les infos, de ton travail. Le 9 août, vu que tu reprends début septembre, le 9 août, c'est pas stratégique d'avoir...
Indispensable. Je veux pas rater les événements les plus importants pendant mes vacances.
Je te l'accorde. Deuxième chose, est-ce que tu consultes tes mails tous les jours?
Tous les jours.
En vacances?
Tous les jours. Ah, sauf si je suis dans une zone blanche où les mails passent pas, etc. Mais dès que je peux...
Mais tous les jours ou toutes les 2-3 heures?
Oh non, 2-3 fois par jour.
2-3 fois par jour. Les SMS, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
WhatsApp.
Bien sûr, tout. WhatsApp, voilà. Mais WhatsApp, c'est autre chose.
Tu regardes si tu as un message téléphonique sur ta messagerie, bien sûr.
Ouais, ouais. Enfin, c'est la dernière chose que je consulte. J'avoue que j'écoute très peu mes messages vocaux, même pendant l'année, tu vois.
Oui, les messages vocaux, ça.
Mais
ça,
en revanche, les SMS, les mails, les journaux, l'actu, les dépêches AFP, c'est mon métier et je ne décroche pas, je l'avoue, j'ai honte, peut-être. Et d'ailleurs, je me fais engueuler par ma femme, mes enfants, mes copains qui me disent attends, lâche ton truc. Mais en même temps, je vais te dire, quand je ramène les journaux sur la table du petit déjeuner, bah, tout le monde se précipite, tout le monde a envie de lire les journaux, y compris des gens d'ailleurs qui ne lisent pas la presse pendant l'année. Bah ouais, ils sont contents, on partage.
Alors moi, moi quand je ramène des journaux, personne ne se précipite, mais quand j'amène un bon petit beurre salé, une bonne baratte de beurre salé, que je fais griller le pain, que je fais le café bien chaud, là tout le monde se précipite.
Ouais, mais sauf que quand le matin tu vas chercher les journaux, bah évidemment tu ramènes le pain frais, les croissants, les brioches, une petite tropézienne pour le déjeuner, bah oui.
Ben moi, les amis, je suis pas comme ça. Tu me ramènes le journal, honnêtement, je le prends et je le lis, bien sûr. Mais pendant les vacances, j'ai quand même tendance à tout couper. J'allume mon téléphone 20 minutes pour voir s'il y a eu des urgences, etc. Mais autrement, je ne consulte rien, ni mes mails, ni les réseaux sociaux, ni les SMS, etc.
Bon, on va peut-être voir avec Lisa Marie comment vous votez, les amis.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Eh bien, c'est très serré entre les accros au travail, même pendant les vacances, et ceux qui coupent tout. Vous êtes pour le moment 54% de l'avis d'Éric.
Ouais.
Donc c'est serré, hein. On a des accros et puis on a ceux qui coupent.
Il y a quand même deux sortes de gens dans la vie, il faut dire la vérité. C'est pas honteux de dire ça. Il y a des gens qui sont absolument passionnés par leur boulot, que ce soit les vacances ou pas. Puis il y a des gens qui sont obligés de rester connectés ou qui se sentent obligés alors qu'ils aimeraient bien déconnecter. Puis il y a tous ceux pour qui le boulot, ouais, c'est pas terrible, ils s'en foutent un peu. Voilà. Et je respecte ceux qui décrochent.
En réalité, ce smartphone, c'est t'as toute ta vie dans ton smartphone. Regarde tous les célibataires qui ont des applis de rencontres. Toute la journée, ils vivent avec la possibilité, quand tu es une femme, de rencontrer quelqu'un d'autre, d'autre.
C'est pas un boulot, ça.
C'est pas un boulot, mais ce que je veux dire, c'est que tout devient concentré dans ton téléphone. Donc tu le gardes ouvert parce que est-ce que tu as un petit mail de ton patron? Est-ce que tu as ton appli de rencontre qui te dit elle s'appelle Roselyne, elle voudrait te saluer, voilà. Est-ce que tout est résumé, toute ta vie est résumée dans ce smartphone et finalement ben voilà, tu l'as toujours autour. Et en fait, Laurence, pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, les applis ludiques, tu vois, moi par exemple, j'ai une application qui me dit le nombre de pas que je fais quand je cours, quand je fais mon footing, etc. Bon, donc j'aime bien l'avoir. Le piège, c'est que comme j'aime bien l'avoir quand je fais mon footing, l'application, ben du coup parfois je laisse mon smartphone ouvert et comme il est ouvert, j'ai tout le reste. Voilà, c'est-à-dire les mails de boulot. C'est pour ça que je me dis qu'il faut l'éteindre.
Il y a une solution, elle est suggérée par Fanny sur Direct Studio, c'est d'avoir deux téléphones, un privé et un perso. Comme ça, quand tu veux couper, tu éteins le privé. Et pour le reste, les applications, compte et pas, bah, tu utilises le perso.
Pas mal, ouais, pas mal.
Allez, bon. Tu voulais aller dans le Gers?
On va dans le Gers. On y va.
RMC, Brunet Neumann, 32-16.
À Lille Jourdain, salut Mathias.
Oui, salut.
Mathias, dis-moi, elle existe toujours la boîte de nuit à Lille Jourdain, le pied, non?
Le pied, non, c'est fermé.
T'as fermé?
Ouais. Mais ça
existait
pendant un moment, j'ai connu.
Ouais, attends, Mathias, je suis désolé, on t'entend très très mal.
T'es en haut-parleur ou quoi, là? Tu peux pas te mettre mieux que ça?
Non, je suis pas un haut-parleur, mais bon, déjà, les airs, ceci, ça capte.
Il faut que tu sors de ta voiture parce que là, on t'entend très mal.
On te rappelle,
et en attendant, on va prendre Benoît qui nous appelle de Saint-Laurent de Tergat dans la Manche. Salut, Benoît.
Salut, Benoît.
Allô, ça va
et toi?
Ça va.
Bon, est-ce que t'es plutôt Brunet, je décroche pendant les vacances, ou Neumann, je continue à bosser, même à distance, même tenir au courant?
Bah, plutôt Neumann.
Ah, alors explique, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis chauffeur poids lourd.
Ah bon? En quoi t'as besoin de rester connecté?
Ah oui, je comprends pas.
En fait, on est une petite boutique, on est une douzaine de chauffeurs, et on fait du transport avec de la hauteur. Donc vu que les ponts au-dessus de 4 mètres 30 sont pas signalés, j'ai souvent des collègues qui m'appellent pour me dire tiens, je vais chez tel client, est-ce que je peux passer par là ou par là? Donc faut que j'aide mes collègues pour éviter les accrochages, les conneries, les trucs comme ça, quoi.
Ouais, donc tu continues à rester en contact avec tes collègues de boulot.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Et t'as pas l'impression que ça te pourrit les vacances?
Bah non, s'ils m'appellent, ça dure 5 minutes, machin, et puis quand je reviens de vacances, on boit le café ensemble et puis
voilà.
L'affaire est réglée.
Voilà.
Voilà. Et en plus, je me suis fait un petit portefeuille d'actions parce que je suis un salopard d'actionnaire. Donc forcément, même en vacances, eh ben, je suis les actions que j'ai achetées, savoir si ça monte, ça descend. Et
ah, c'est intéressant et parce que tu. C'est intéressant, Benoît, parce que tu mets ça à égalité avec ton boulot. C'est une forme de boulot de suivre tes actions.
Bah oui et non, parce que j'aime bien ça et c'est surtout pour prévoir ma retraite plus tard.
Non mais c'est marrant parce que t'as vu le profil du mec, il est chauffeur poids lourd et boursicoteur et voilà, chauffeur poids lourd et boursicoteur. Ouais, je comprends ce que tu dis, hein. Moi je comprends ce que tu dis, mais franchement, pour vraiment relaxer pendant l'été, il faut décrocher. Hein. Moi je te conseille de décrocher complètement pour vraiment apprécier l'art suprême, sublime. Quasi aristocratique, je parle de l'art du glandage.
Pour non, bien ça, glander. Je l'ai fait quand je travaillais pour des grosses boutiques.
Ouais.
Une boutique où tu as 300, 350 chauffeurs, bah, c'est pas pareil que de bosser pour une petite boîte où on est 12 chauffeurs. Là, chez nous, on est 6 en camion-remorque, dont moi. Je suis le deuxième plus ancien en camion-remorque. Donc, les nouveaux qui arrivent, il faut des fois les guider, leur dire tiens, passe telle route plutôt que telle route.
C'est marrant parce que. T'as un sacré job, t'es pas un chauffeur poids lourd comme les autres. Toi, t'es vraiment sur une activité très précise qui sont des convois qui sont hauts.
Ben, on n'est pas en convoi exceptionnel, mais on est en hauteur. Là, par exemple, là, je suis chargé en paille.
Ouais.
Donc, tu vas charger dans la ferme, tu vas vider dans la ferme.
Ouais.
Donc, c'est des petites routes de campagne. Donc, il y a des endroits où tu te dis sur la carte, oh là là, là, ça va être beaucoup plus rapide. Mais t'as un virage où tu vas pas tourner. Il y a un pont qui va arriver. Tu vas dire, putain, merde. 40 bornes de détour pour éviter un pont. Si je l'aurais su avant, j'aurais fait que 20 bornes. Donc, t'as toujours des trucs comme ça, quoi.
Ouais. Ouais,
sans compter, si t'arrives sous le pont, tu te dis ça passe, et puis qu'après, bah, ah bah non, ça passait pas.
Enfin, en même temps, toi, t'as pas la science infuse, toi. Comment
c'est des clients assez réguliers qu'on fait.
Ah ouais, donc c'est des routes que tu connais, tu les informes sur des routes que tu connais. Ouais.
Ouais, bah après, quand je connais pas la route,
oui, bah, c'est sûr. Non, mais
ils vont se débrouiller comme.
Donc, alors, ça veut dire quoi? Donc, le matin, tu te lèves au petit-déj, tu t'allumes ton téléphone.
Oh oui, il s'éteint jamais mon téléphone.
Il s'éteint jamais, il est toujours même, il est en charge de batterie allumée.
Ouais.
Ouais. Bon d'accord. T'arrives au petit déj, tu t'installes, t'as ton téléphone à côté.
Ouais, c'est ça.
Et quand tes collègues t'appellent pas, ok. Une journée où t'es en vacances tranquillement, soleil, personne t'appelle. Tu n'as pas de collègues routiers qui t'appellent. Tu fais quoi? Tu passes tes
journées. Je profite de mes vacances. Mais non mon mais portable reste allumé.
Tu le consultes ton truc, tu regardes.
Bah, je le consulte pour la bourse, mais pas pour mon boulot de chauffeur.
D'accord. Ok.
Alors attends, Benoît, reste avec nous parce qu'on a retrouvé Mathias qui nous appelait de l'île Jourdain dans le Gers. Mathias, est-ce que tu nous entends mieux? Est-ce qu'on t'entend mieux d'abord?
Oui.
Moi, je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez.
Bah voilà, là, c'est magnifique.
Ah, bon, super.
Magnifique. Bon, alors toi, tu es plutôt brunet ou neumann? Tu décroches ou pas pendant les vacances?
Moi, je décroche totalement, ouais.
Ah.
Complètement.
Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton téléphone quand tu es en vacances? Tu le mets où? Tu le places où? Est-ce que tu le laisses en charge? Est-ce que tu le coupes complètement?
Non, je le coupe pas complètement, mais je fais attention aux urgences, hein, bien évidemment, qu'elles soient familiales ou autres. Mais après, je fais une sélection. Hein, je regarde un peu de fil d'actualité le matin. Mmh. Et après, je coupe complètement. Mais si j'ai mon téléphone qui sonne, je vais regarder. Mmh. Si je connais pas le numéro, je décroche pas. Si je connais, j'attends de voir. Soit ça laisse un message, soit je rappelle plus tard. Si ça insiste, je décroche. Et après, j'avise. Mais au niveau travail, sinon... je décroche pas et voilà. Et puis bon, j'ai un métier aussi, c'est un choix que j'ai fait. Je fais un métier qui génère moins de responsabilités et moins d'implications. Donc, ça permet d'avoir cette liberté-là.
Très honnêtement, quand tu rentres du boulot après 3 semaines ou 1 mois de vacances, il y a un truc qui ne trompe pas. Est-ce que tu te souviens de ton code d'identification sur ton ordinateur?
Non, pas souvent. Oui, alors on l'échange tous les 2 mois pour une question de sécurité. Donc
ouais,
déjà,
nous on fait pareil ici.
Voilà, il y a ça. Mais si une fois ça m'est arrivé, je suis rentré, j'avais des congés assez longs cette fois-là et j'avais complètement oublié. Alors je l'ai noté par sécurité, bien évidemment. Mais ça a prouvé encore une fois que j'avais vraiment très très bien décroché, quoi.
Ah, mais moi j'ai une fille, Madeleine. Alors j'ai eu Madeleine 06 comme code d'accès à mon ordinateur, je le dis parce que c'est plus ça.
Bah, tu l'as changé. Hein.
Suzanne 04, mon autre fille, 04 c'est les dates de naissance, les années de naissance. Et là, je te jure, et moi chaque rentrée fin août, je suis là, Madeleine, je tape Madeleine 06, non c'est pas ça, non, j'ai mal tapé, non il y avait une capitale, il y avait une majuscule là, etc. Non, ça marche pas. Après Suzanne, bordel, mais l'enfer. Parfois je mets 4-5 jours et soudainement ça te revient, tu sais, la mémoire comme ça.
Oui, c'est ça. C'est ça. À force de, après, voilà, c'est l'activité, je pense aussi, je coupe complètement, donc on a moins le rythme, on a le cerveau, moi je trouve, c'est beaucoup plus lent, même à la reprise du travail. Hein. J'ai beaucoup de mal à ouvrir les dossiers que j'ai, reprendre, on va dire, un rythme d'activité. Je coupe vraiment.
Ouais, bah moi voilà. je vois une leçon à tout ça, Mathias. Je me dis qu'on est beaucoup plus feignant dans le Gers que dans la Manche. Voilà, c'est tout parce que Benoît lui il continue à rester connecté. Mathias lui il décroche. Bon, pardon Mathias, non, je suis un peu de mauvaise foi évidemment. Non. On a parfaitement le droit de déconnecter.
Dans le Gers, on est comment te dire cette espèce de culture assez exceptionnelle. On est des jouisseurs, des gens brillants. Remarquable, et on sait faire la part des choses entre les fondamentaux de la vie et puis le travail.
Et puis, t'as oublié une des grandes qualités du Gersois, c'est qu'il est modeste, évidemment.
Qu'il est modeste.
Allez, on va remercier Benoît.
Il était modeste, Mathias. On... D'ailleurs, Mathias, il a dit un truc dingue. Hein. Il a dit, j'ai choisi un métier volontairement. Il est contrôleur qualité. J'ai choisi un métier où il n'y avait pas un seuil de responsabilité trop élevé pour ne pas me faire emmerder pendant tout l'été sur mon smartphone. J'ai trouvé ça, c'est rare qu'on entende ce genre de vrai. Propos.
En tout cas, on vous souhaite d'excellentes vacances à Benoît dans la Manche, à Mathias dans le Gers. Les amis, vous restez avec nous. Juste avant qu'on marque une courte pause, il vous reste moins d'un quart d'heure, les amis, pour gagner votre semaine de vacances dans Brunet-Neumann. On vous offre votre séjour pour 4 à Europa Park avec votre nuit d'hôtel 4 étoiles. Hein, c'est le parc de loisirs élu meilleur parc du monde en Allemagne. C'est à quelques kilomètres de Strasbourg. Vous pourrez profiter de toutes les attractions du parc, les toboggans, les piscines à vagues, les rivières. Pour gagner ce séjour magique, il suffit d'envoyer parc par SMS au 732-16, parc P-A-R-C au 732-16. Et donc, dans moins d'un quart d'heure, le gagnant, la gagnante sera avec nous dans Brunet-Neumann sur RMC. A tout de suite, les amis.
RMC, midi 14h.
Brunet-Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Bon, mes petits amis, c'est simple. De nombreux Français, vous savez, continuent de consulter leur téléphone et leur mail professionnel pendant les vacances. Laurent dit, c'est très simple, j'avoue que je fais partie des accros, j'avoue que je n'arrive pas à décrocher. Eh bien, pour moi, c'est assez facile de décrocher, je comprends pas. Enfin, c'est juste en vacances, ben, tu coupes, quoi. Tu regardes une fois un quart d'heure par-ci, une fois un quart d'heure par-là, mais pas plus que ça, hein, deux fois dans la journée, s'il n'y a pas le feu au lac, et puis c'est tout. Pour le reste, tu décroches. Voilà. Bon, est-ce qu'on reçoit des messages ? Oui, je vois ton visage, Lisa Marie.
De très nombreux messages. Plein. On a par exemple Fred qui se pose une autre question et qui nous dit, d'un autre côté, au travail, est-ce qu'on coupe vraiment de notre vie perso ? C'est tout de même insupportable de voir mes collègues sur les réseaux sociaux, au travail, Facebook sur l'ordinateur, Instagram sur son téléphone, à pianoter entre les conversations WhatsApp en réunion et à jouer à des jeux de smartphone pendant leur temps de travail.
Et répondre aux questions posées par la famille et s'occuper du médecin du petit dernier.
Les appels perso, etc. Oui, c'est vrai évidemment. Ça. On a Greg qui nous dit, moi je garde mon tel pro pendant les vacances, mais pas pour consulter mes mails, ça non. C'est pour vous écouter sur la plage depuis l'application RMC. Donc on a un fan, Greg, jusqu'au bout.
Le droit, lui.
Ah bah lui, il peut le garder. Et puis on a Clément qui nous dit, moi je suis indépendant et malheureusement je ne peux pas me permettre de couper mon téléphone.
Alors moi j'ai un patron de PME qui dit, je prends des vacances en août uniquement car je sais que je serai moins dérangé par mes clients qu'en juillet, mais ils savent quand même qu'ils peuvent m'appeler, je suis à leur service si nécessaire. Et il dit, alors il introduit une notion intéressante, il dit en revanche les salariés, il parle des salariés, eux vivent dans une bulle car ils n'en ont pas conscience. Le pire c'est qu'ils pense que ce sont les petits patrons, les privilégiés. Oui, ce qu'il veut dire, c'est que finalement, de couper comme ça son téléphone, son smartphone l'été, c'est un luxe de salarié parce que le petit patron, lui, il est toujours obligé d'être connecté avec...
Ou quand on n'a pas de responsabilité, tout simplement.
C'est plus facile.
Allez, on va aller du côté de Montpellier.
RMC, Brunet-Neumann.
32-16.
C'est Marc qui nous appelle. Salut Marc, bienvenue sur RMC.
Salut Marc. Bonjour. Bonjour.
Vous m'entendez bien ?
Oui, bien. Et toi, est-ce que quel temps fait-il à Montpellier ?
Là, il fait beau.
Déjà en vacances ou pas encore ?
Pas encore en vacances.
Oui. Tu restes
en vacances, ce ne sont pas de réelles vacances de la définition même de vacances. Ah, pour moi, à mon goût. Hein.
Pourquoi ? Parce que Covid et donc tu vas rester...
Ah, mais pas, c'est pas ça. Non, c'est au sujet du sujet.
Ah, t'es victime d'un patron ou de collègue qui te harcèle.
Non, c'est le contraire. C'est moi qui ne veux pas ne peut pas entre guillemets, mais c'est plutôt de la veupacité, de la peupacité, me déconnecter. Parce que
qu'est-ce que tu fais
dans responsable de points de vente.
Ah bah voilà.
Et j'ai plusieurs points de vente. Mmh. Donc voilà, me déconnecter me paraît une irresponsabilité, même si ils peuvent gérer sans moi. Mais quand même, je veux être au courant. Par exemple, sur mon téléphone portable, je reçois le chiffre d'affaires en direct de toutes les boutiques. Donc, le matin, je me réveille, je regarde si vraiment il y a un chiffre d'affaires qui a bougé ou pas. S'il est à 0 euro à 8 heures, je me dis qu'il y a plus de point de vente qui n'est pas ouvert, quoi.
Ah, d'accord.
Ça m'alerte. Dis-moi, peut-être un employé qui n'est pas venu. Ouais. Ou...
Ouais. Dis-moi, Marc,
c'est des points de vente qui font quoi ?
J'ai pas compris.
C'est des points de vente qui sont dans quel domaine ?
Alors, c'est une cantine 100% bio.
C'est des cantines.
C'est la nourriture. Oui, c'est
d'accord.
Et dis-moi, Marc, je ne sais pas si tu es marié, si tu as une compagne, un compagnon.
Oui,
si tu,
je n'ai pas accès à quelqu'un.
Si tu as des enfants. Est-ce que tu te fais engueuler par ta compagne et par tes enfants ? Dis-moi la vérité.
Ah oui, c'est pas les engueulades. Elle ne comprend pas que je n'arrive pas à couper, que les autres arrivent à couper et pas moi. Je l'explique par A plus B, mais...
Est-ce que elle arrive à couper ?
Oui, c'est différent, elle est infirmière, donc quand elle est chez elle, elle est chez elle.
Quoi. Et oui, c'est comme tout à l'heure notre amie qui nous appelait, là, qui était assistante en EHPAD. Oui, quand on travaille à l'hôpital, quand on est infirmière,
voilà,
quand on est
infirmière, quand on couper, donc,
c'est plus facile.
Et dis-moi, alors comment ça se passe ? Tu te lèves le matin à quelle heure ?
En plus, moi j'ai deux téléphones, un perso et un pro. Une ligne pro et une ligne perso. Mmh. Et ma ligne perso, bon, elle est ouverte, mais je ne reçois quasiment pas d'appels. C'est des amis, c'est des trucs, c'est la famille, mais c'est rare. Mais la ligne pro, elle sonne tout le temps. Il y a des fournisseurs qui m'appellent. Même si les fournisseurs ont les numéros de fixe de chaque boutique, mais quand même, c'est mon numéro qui prime, quoi. C'est un problème, c'est moi qui le gère.
Dis-moi,
la solution, c'est moi qui l'apporte.
Tu l'allumes à quelle heure, ton téléphone pro?
Je ne l'étais jamais déjà.
Ouais.
Ma première boutique ouvre à 5h30 du matin.
Oh non, mais c'est une blague. Donc tu regardes vers 5h30, 6h, 7h.
Ah,
oui. Tu regardes ?
Ah oui, je regarde. Mais ça prend 2 secondes. Hein.
Ouais.
Je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Bon,
donc attends. Donc tu es dans le lit, ta compagne est à côté de toi dans le lit, c'est ça ?
Exact.
Et là, tu tends la main sur la table de chevet.
Exact.
Ton truc est branché parce que tu l'as rechargé pendant la nuit.
C'est ma vie.
Tu t'appuies dessus, tu regardes et tu. Et
je regarde juste s'il y a un mouvement au niveau du chiffre d'affaires et voilà.
Un mouvement au niveau du chiffre d'affaires. Et quand il y a un mouvement au niveau du drap et de la couette, parce que tu tends le bras et tu regardes ton truc, est-ce que ta compagne commence à te dire.
Non, elle a le sommeil lourd. Ça va.
Le sommeil lourd.
À ce niveau-là, ça va.
Oh, je
n'arrivais pas. Non,
toi, t'es fabuleux, mais toi, t'es une star. Et t'arrêtes à quelle heure le soir ?
Une heure, minuit, une heure.
Non, mais il est pire que toi, Laurent. Et pendant le repas, bon, à midi, tu cuisines.
Ah non, j'ai mon téléphone tout le temps, hein, tout le temps.
Hein. Bon, alors, je te dis, Marc, je suis accro, mais j'en suis pas là. Hein. J'en suis pas là.
Pas une histoire d'accro, c'est l'histoire de maîtrise, de contrôle.
D'accord. Ouais.
Non, mais il faut dire la vérité aussi, c'est que t'aimes ton job. Si ton job te pesait, tu déconnecterais.
Ah non, je ne me plains pas de mon job. Attends. Non, ça, je refuse.
Mais alors, juste un truc, t'es un patron ou t'es un salarié ?
Alors, les deux, entre guillemets, parce qu'il y a un président au-dessus de moi.
Oui.
Qui a la marque. Et moi, je suis gérant de tous les points de vente.
D'accord. Donc, t'es intéressé aux chiffres ?
Ah oui, ouais. Ah oui, j'ai un gros intérêt aux chiffres.
Oui, voilà.
Ah, c'est pour ça, hein, si je m'en foutais du chiffre, je n'aurais jamais regardé.
Lui, c'est un champion du monde.
C'est un businessman, même pendant ses vacances.
Donc, quelqu'un arrive et dit, tiens, j'ai cuisiné, regarde un petit tiramisu, c'est le dessert, c'est l'heure du déjeuner. Le tiramisu arrive, tu dis, ah, super, bravo, il a l'air bon. Et puis, pendant que les gens...
Mais je suis à moins 13% sur mon magasin, là.
Et tu regardes discrètement ton truc un peu sous la table, quoi. Tu mets ton téléphone
discrètement. Il y a même des jours où, parce que le président n'est pas trop d'accord avec ça, il me dit de couper. Mais moi, je lui explique que je ne peux pas couper. C'est une histoire de... Il comprend. Hein.
Ouais.
Mais lui, il m'incite à le faire.
Ouais.
Mais quand je mange des fois, parce que je monte au siège avec lui manger une fois par semaine, quand je mange avec lui, j'ai mon ordinateur sur la table et je travaille. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit que j'ai un souci, quoi. celui qui me paye, hein, qui me dit ça.
Incroyable.
Ouais, enfin, bon. En même temps, il doit être content de ton boulot, j'imagine.
Ouais, ouais, ah oui, je suis content et moi aussi, j'aime mon boulot, sinon je passe ça.
Hein. Alors, attends, Marc, on a Sébastien là qui est avec nous, qui nous appelle au 3216, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Salut Sébastien.
Salut Sébastien.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu es comme Marc? Est-ce que tu n'arrives pas à décrocher toi aussi?
Non, mais donnez Marc, il n'y en a qu'un, c'est pas possible.
Alors, moi, je suis un cas particulier. J'étais de ceux qui ne décrochaient pas il y a quelques temps encore, sauf que récemment, je suis parti à l'étranger et j'ai deux téléphones, un perso et un pro. Et du coup, le fait de partir à l'étranger, j'ai coupé complètement mon pro et ça m'a fait un bien fou. Ça a changé, on va dire, ma vision des vacances, l'aspect des vacances.
Sébastien, oui. C'est une décision que tu as prise tout seul ou tu y as été incité par quelqu'un qui vit avec toi?
Non, alors, contraint. On va dire contraint parce que je suis parti à l'étranger et que le téléphone pro ne passe pas à l'étranger.
Ouais.
Après, incité par la personne qui vit avec moi.
Voilà.
Voilà. J'ai constaté en fait vraiment le changement. Alors, j'étais de ceux qui gardaient son téléphone allumé, qui consultaient les mails et tout ça, mais de ma propre volonté, hein, pas forcé du tout de le faire. Mais voilà, j'ai aussi donc le fait de partir constater le changement que ça pouvait apporter. Et depuis, je laisse mon téléphone éteint. Alors mon responsable a mon téléphone perso en cas d'extrême urgence. Il l'utilise. Voilà, mais je sais que c'est à bon escient et avec parcimonie, on va dire. Voilà.
Tu vois, Marc, Sébastien, lui, il a commencé à apprendre à décrocher un petit peu. Marc, tu pourrais faire ça, toi. Tu pourrais lâcher un peu ton téléphone ou ton ordinateur.
En temps de non-vacances, en temps de travail, j'ai du mal à déléguer, déjà. J'ai
un problème à ce niveau. Mais pendant les vacances, écoute.
Non, il faut garder. Tiens, tu que ça passe.
Sébastien, explique à Marc comment il peut faire un petit effort sur lui-même, Marc, et lâcher que ça fait du bien.
On est plus serein. On est plus serein parce qu'on a une. Alors j'ai des responsabilités, c'est important quand même de par mon métier, mais on est plus serein et puis on est incité aussi par nos responsables. Je fais partie d'un gros groupe qui nous disent ouais, c'est pas parce que alors c'est surtout ouais, on m'a dit une fois c'est pas parce qu'on t'appelle que tu es important. Ça, j'ai une phrase que j'ai retenue et c'est vrai finalement. Il y a d'autres personnes qui peuvent gérer à notre place. On s'organise avant le départ de vacances pour transmettre les dossiers et puis, monsieur disait qu'il avait du mal à déléguer. Bon, c'est des choses qui s'apprennent aussi, hein. Mais voilà, on nous l'a appris, on nous incite à déléguer et puis, on est en vacances.
Bon,
j'ai changé de sujet.
On vous embrasse tous les deux, Sébastien, qui est en Seine-et-Marne, et Marc qui nous appelait de
Marc, tu n'en viens pas, il est d'un niveau international. Tu sais que si en France il n'y avait que des Marc, je pense qu'on serait, je ne sais pas, le pays avec le plus gros PIB du monde. Tu vois,
non, on n'aurait pas besoin de mettre 100 milliards d'euros pour la relance. Allez, salut Marc et Sébastien, vous restez avec nous les amis.
Drôle, tu sais que tu as été drôle. Là.
Dans un instant, on va savoir comment vous nous avez départagé, Eric et moi. Et puis surtout, c'est la tradition dans Brunet-Neumann, on vous emmène voir le Français de l'étranger. Tiens, il est en Asie, je ne vous dis pas où, il est en Asie. A tout de suite les amis sur RMC.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Alors vous, pendant les vacances, les amis, vous décrochez de votre boulot? Vous consultez votre téléphone, vos mails professionnels? Vous êtes comme moi, oui, vous continuez un peu, hélas. Ou alors comme Éric, qui lui coupe tout pendant les vacances. On va voir comment vous avez voté, les amis.
RMC.
Brunet Neumann.
Le qui tu choisis?
Eh bien, vous êtes 57% à préférer la déconnexion totale pendant les vacances. C'est une victoire pour Éric.
Bon, Laurent, j'ai un truc à te dire.
Oui.
Aujourd'hui, le Français de l'étranger,
oui,
c'est un Français de l'étranger un peu particulier parce qu'il habite à Hong Kong et tu sais que Lisa Marie qui est avec nous, notre stagiaire, a travaillé, a vécu à Hong Kong quelques années.
C'est l'ex-petite amie de...
Non.
Non, ah bon ?
Ah non, c'est pas mon ex,
c'est
non ?
C'est son meilleur ami.
Et ah mince, j'ai fait une gaffe.
Non, bah c'est ton meilleur ami. C'est son meilleur ami.
Enfin son meilleur ami.
Quoi cette histoire? Bon, non, c'est son meilleur ami. Et alors, on lui fait une surprise. C'est elle qui va l'interviewer. Bouclez votre ceinture. Nous allons à Hong Kong.
RMC.
RMC.
Midi 14h, Brunet Neumann.
Mesdames, messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger.
Vous venez d'atterrir à l'aéroport de Hong Kong. Nous attend l'ami Arnaud, que je laisse entre les mains expertes de
Lisa Marie. Non, mais je t'en prie.
Voilà, et c'est elle qui va interroger l'ami Arnaud.
Tes allusions à deux balles.
Salut Arnaud, comment ça va?
Salut Lisa, c'est une sacrée surprise parce que moi je pensais m'adresser avec Eric, à Eric et Laurent, mais en fait pas du tout.
Mais tu vas les faire rêver, est-ce que tu peux nous raconter et nous décrire un petit peu ce que tu vois là depuis chez toi?
Bah écoute, il est 20h, presque 20h, je suis en plein cœur du quartier de Sheung Wan, qui est un quartier central de l'île de Hong Kong. Évidemment, c'est plus ou moins la carte postale de Hong Kong que j'ai sous mes yeux, avec un amphithéâtre de buildings plus hauts les uns que les autres. Et j'aperçois au loin la tour iconique de Hong Kong Island, qui est l'IFC, que tu connais évidemment très bien.
Et je la connais très bien, et ça me manque, tu nous fais rêver là. Et tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as quitté la France et pourquoi tu t'es installé à Hong Kong?
Alors moi, ça fait 8 ans déjà que je suis à Hong Kong. En fait, je suis parti en 2012 en VIE, donc volontariat international en entreprise, pour le compte de Pernod Ricard. Voilà, donc fraîchement après mon diplôme, j'ai mis les voiles direction le Cap, direction Hong Kong. Et évidemment, d'un point de vue business à l'époque, c'était beaucoup plus dynamique et plus simple de décrocher un premier emploi, en fait.
Bon, Arnaud, on va arrêter immédiatement cette interview totalement complaisante. On voudrait savoir avec Eric ce que tu fais, ce que tu faisais avec Lisa Marie le soir, dans vos moments de loisirs. On sort où? Qu'est-ce qu'on fait de sympa quand on bosse pas?
C'est une ville
à Hong Kong.
Dingue pour faire la fête, Hong Kong.
Allez, voilà, exactement. Exactement, il faut savoir que, en fait, le motto, le slogan de Hong Kong, c'est work hard, donc travailler très dur la semaine, and play hard pour le week-end. Et donc, ça veut dire faire la fête à fond le week-end.
D'accord. Donc maintenant, Arnaud, je te coupe. Maintenant, il faut que tu balances. Vous faisiez quoi le soir pour vous marrer avec Lisa Marie?
Donne-nous des exemples de lieux, de trucs de dingue, quoi.
Bah, avec Lisa et tous les autres groupes de potes français qui potentiellement nous écoutent en ce moment même, on allait tous dans le quartier de Lang Kwai Fong, en fait, qui est un quartier central très connu des noctambules du monde entier, on va dire. Et voilà, donc on passe nos soirées sur les rooftops, on va de bar en bar jusqu'à 4h, 5h du matin quand on était jeune. Et voilà, quoi, c'est vraiment une capitale de
Lisa Marie nous a toujours dit que c'était totalement sécure. À 4h du matin, à 5h du matin, tu sors, tu vois pas de taxi, tu sais pas trop, tu peux marcher à pied, les
bien
gens.
Sûr,
il paraît que c'est. Ouais, ça, c'est formidable. Ouais.
C'est un énorme avantage de Hong Kong, et évidemment encore plus quand on est une femme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sorte de menace où on n'a jamais besoin d'être sur ses gardes. C'est sûr que dès qu'on rentre à Paris, même si ce n'est pas une ville dangereuse, entre guillemets, on a quand même besoin d'être sur ses gardes quand on prend le métro tard le soir ou quand on rentre chez soi.
Et Arnaud, tu nous confirmes que Lisa Marie est une sacrée fêtarde?
Alors, c'était une sacrée fêtarde.
C'était
une sacrée fêtarde. Là, je ne sais plus trop depuis.
Ah non, à Paris, je me suis rangée. À Paris, je travaille. Je me couche tôt pour être en forme ici.
Un bonnet de nuit.
À Hong Kong, je peux vous dire qu'elle a fait les 400 coups. Pas forcément avec moi.
Non, mais vas-y, raconte, balance. Attends, il y a 1 million d'auditeurs qui attendent tout savoir.
Non. On passera sur une autre radio, type Skyrock ou.
Dis-moi. Non. Question sérieuse. Nous avons appris aujourd'hui, en préparant cette émission, que la rédaction d'un grand quotidien anglo-saxon qui était à Hong Kong, la rédaction asiatique avait quitté Hong Kong pour aller en Corée du Sud, estimant que c'était difficile de faire le boulot de journaliste indépendant désormais dans le contexte politique qu'on connaît à Hong Kong. Qu'est-ce que tu peux dire? Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais
moi je suis pas un expert en la matière, je suis plus expert en termes de fêtes, comme je l'ai dit avant, mais à ce niveau-là, c'est sûr que, il va y avoir des changements qui sont déjà en train d'être mis en place, et c'est sûr que, il y a des entreprises, des journalistes qui vont potentiellement bouger. Ouais. Pas forcément les sièges sociaux des multinationales, tant qu'ils ne touchent pas, en fait, aux lois préservant la santé économique et financière et au niveau des impôts, ces entreprises vont pas bouger. Mais évidemment, j'imagine que les New York Times ou CNN, qui ont leur siège
en Asie, à Hong Kong, vont potentiellement
c'est
bouger
ça.
Parce que c'est des, évidemment, c'est des médias américains.
C'est ça, c'est une partie du personnel du New York Times qui va quitter Hong Kong pour Séoul. Bon, mais merci ouais. beaucoup. Écoute, c'était un joli moment que nous avons passé
merci
avec
beaucoup,
toi.
Merci beaucoup, Arnaud. Embrasse Hong Kong de ma part.
Merci. Tu fais quoi
merci
ce soir?
Vous,
tu vas faire quoi ce soir? S'il est 11, s'il est 20h, que vas-tu faire là maintenant?
Écoutez, bah là, je vais aller courir sur les quais au bord de la mer. Voilà.
D'accord, voilà. Et tu fais pas la fête ce soir?
Voilà. Non, parce qu'en fait, ils ont reconfiné depuis hier. Tous les restaurants, bars et boîtes sont fermés depuis hier pour une durée de une semaine à cause de la recrudescence des cas.
D'accord. Très bien, merci, voilà. Merci beaucoup. Merci.
Salut Arnaud.
Merci Arnaud, salut, bonne soirée à toi à Hong Kong. Et puis les amis, nous on se retrouve évidemment demain, mais c'est l'heure, qu'est-ce qu'on fait là? Ah
d'accueil
non, le jeu
Marc.
Mais non, le jeu, bah oui.
Bah oui, bah Marc, bah oui, tu le connais pas Marc.
Quoi. J'allais oublier Marc.
Allô.
Salut Marc. Salut Marc.
Ah bah voilà. Allô, comment allez-vous les
très
amis?
Très bien bah, Marc.
C'est toi qui dois aller bien mon gars, parce que je crois que c'est toi qui as décroché le gros lot.
Ouais, tu as gagné.
Je crois bien.
Tu as gagné.
Je voulais vous remercier.
Un vieil porte-avions nucléaire français.
Et
il est à toi.
Je le mettrai dans le vieux port de Marseille.
Il est à toi. Tu passes le prendre quand tu donne une date quoi. Hein.
Bon, je viendrai le prendre en plusieurs fois bon, pour le bien. Transporter. Ça sera plus simple.
Bon, allez.
Europa Park est le meilleur parc de loisirs du monde.
Et voilà Marc, tu as gagné ton séjour pour 4 à Europa Park en fait, bien sûr, et non pas un porte-avions. C'est le meilleur parc de loisirs du monde, ça vient d'être dit. Il a été élu plus beau parc de loisirs du monde avec l'accès à Rue Antica, le parc aquatique. C'est vers Strasbourg, côté allemand.
Ouais, bah c'est le parc pour 4 personnes, mais c'est en plus une nuit dans l'hôtel 4 étoiles.
Ouais.
Je ne sais pas si tu vois le cadeau.
Ouais.
Bon, bravo Marc, on est ravis pour toi. Passe du bon temps à Europa Park.